pouvoir réaliser donc les deux conférences prévues dimanche aujourd'hui sur alimentation, santé, environnement, et le 2 février, mardi, toujours pour la bio, dans le cadre donc de l'alimentation bio en collectivité. Nous remercions beaucoup le maire, M. Estrosi, qui, par la présence du Dr Benchimon, nous a honoré de sa présence et de l'intérêt, certainement, qu'il porte au thème de la bio. Nous avons aujourd'hui deux médecins, donc Martine Grimaldi, bien connu du Niçois, qui est donc sur Nice, gynécologue, pardon. Le docteur Nguyen Han, qui est à Paris, et Philippe Desbrosses, que beaucoup de personnes connaissent, qui depuis de nombreuses années travaille pour la propagation de l'agriculture bio. Cette conférence va être donc sur le thème environnement, santé, et plus particulièrement sur la nocivité de ce qui nous entoure au niveau d'une certaine alimentation en particulier de la viande industrielle. Donc, je vais commencer et ensuite Martine Grimaldi nous présentera les méfaits, surtout au niveau des pesticides et engrais chimiques. Le docteur Nguyen sur l'alimentation la philosophie chinoise, la diététique, et Philippe Desbrosses nous fera un petit peu tour d'horizon sur l'avenir et le devenir de la bio.
Non, simplement de dire que effectivement, aussi bien de la faculté de médecine de Nice que le maire de Nice, que je représente aujourd'hui, sont très attentifs à tous les progrès et à toutes ces relations qui existent entre environnement, alimentation et santé. Donc il est vrai que les liens sont très forts et qu'ils paraissent évidents au fil des années. Et si l'environnement, le développement durable sont effectivement au bout du jour, c'est-à-dire presque à la mode, c'est une nécessité pour tous de prendre conscience de l'importance du bien manger, du bien vivre dans un environnement, je dirais, plus écologique. Et bien sûr, l'alimentation bio occupe très certainement une place considérable dans cette thématique. Alors, je vous remercie d'avoir suscité cette conférence, qui, j'espère, apportera beaucoup d'éclairage. Merci.
Merci bien. Alors, que faut-il dénoncer dans l'alimentation conventionnelle, de l'agriculture et de l'élevage ?
Ah, raisonnable.
Voilà. Non, mais vous pouvez vous mettre là. Non, vous pouvez vous mettre là.
Alors, la consommation moyenne d'un Français par an, 92 kg de viande, 252 et 100 kg de produits laitiers. Surface cultivée par habitant pour répondre aux besoins en alimentation animale. Aujourd'hui, plus de 22 millions d'hectares de terre au Brésil sont plantés en soja. Le drame se joue en deux temps. Tête de bétail bovin, 26 millions en 90, 175 millions en 2009. Et le second se nomme déforestation. La production de la France en alimentation composée pour le bétail. En 1950, nous avions 600 000 de tonnes. En 2007, 22,6 millions de tonnes. Premier rang européen. pas oublier que 85% du soja importé est transgénique. En 2007, la production pour l'Union européenne, 27 150 000 de tonnes, plus 3,4%. Meilleure production annuelle jamais enregistrée depuis plus de 20 ans. Evialis, spécialiste de l'alimentation pour animaux, 835 millions de chiffre d'affaires, 29% d'augmentation en mars 2009, plus l'achat des activités mirobolantes de Cargill, pas encore pris en compte. Les médicaments destinés à l'élevage. Officiellement, l'industrie fabrique une vaste gamme de médicaments qui concourent à améliorer la santé, la production et le bien-être des animaux. 650 millions d'euros en 2006, 60% du marché total du médicament vétérinaire. L'utilisation sans frein de médicaments destinés à droguer les bêtes en les exténuant peut avoir, comme on dit au moment des guerres, des effets collatéraux. Alors, faisons un peu. Entre 1984 et 2001, la résistance du pneumocoque à la pénicilline est passée de 0,5% à 60%. En 1941, le staphylocoque doré est détruit par cette même pénicilline à 99%. Aujourd'hui, il lui résiste 9 fois sur 10. Fuite en avant de plus en plus coûteuse. Il faudra intégrer les limites objectives. Le sol, l'eau, les aliments disponibles, le nombre de bouches à nourrir et, n'oublions pas quand même, le bien-être animal. En 2007, 1 milliard 46 millions et 562 800 animaux tués dans les abattoirs contrôlés, par nous, pour nous, ou plutôt par eux, pour nous. Alors, un élément dont on parlait, mais qui n'était pas aussi flagrant qu'à l'heure actuelle, les gaz à effet de serre. Élevage mondial émet 18%. Les transports planétaires, voitures, bateaux, avions, 14%. Alors un exemple, tout le monde a entendu parler de la Bretagne qui coule sous le lisier. En 2006, 14 millions de porcs, 2 100 000 de bovins, 350 millions de volailles de chair. Un porc pollue autant sur le plan organique que 3 humains. Les Bretons étant 3 200 000 environ, les animaux polluent au total plusieurs dizaines de fois plus qu'eux. Résultat, l'état des rivières, puis dans la mer avec les marées d'algues vertes, tout le monde est au courant de ce qui se passe en Bretagne. Lisier de bétail, qui est un mélange d'excréments et d'eau, contient des milliers de tonnes d'azote. Plus les engrais azotés pour l'agriculture, notamment le maïs, c'est la catastrophe. Par an, 200 000 tonnes d'azote apportées par les déjections, plus 300 000 tonnes par les engrais, un processus simple, le charge en nitrate, lesquels posent de sérieux problèmes de santé publique et bien entendu de pollution. L'élevage mondial ravage au passage tous les grands équilibres de l'eau à la forêt tropicale en passant par les grands pâturages. Water Footprint et l'Institut UNESCO estiment que 1 kg de bœuf coûte 15 500 litres d'eau à l'humanité. Pour qu'un bœuf atteigne l'âge adulte de 3 ans, il aura consommé quantité de tonnes de céréales, herbes, soja, maïs et foin. Pour obtenir ces produits végétaux, il faut nécessairement utiliser des millions de litres d'eau. Un bœuf dépense 110 litres d'eau chaque jour de sa vie, un porc 70 litres. Le bétail est un exécrable transformateur d'énergie. Il gaspille par millions de tonnes des céréales qui font défaut dans une multitude de maisons humaines, toutes situées au sud, il est vrai, loin de nos regards, bien qu'un tel gaspillage alimentaire soit l'un des plus graves sujets de notre temps, il n'est presque jamais abordé. Monsieur Pachauri, prix Nobel de la paix en 2007, partagé avec Al Gore, président du groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, le GIEC, déclare en septembre 2008 que nous devions tous apprendre à consommer moins de viande pour agir, à titre personnel, contre le dérèglement climatique.
Au début, renoncer à manger de la viande un jour par semaine, et ensuite cesser graduellement de consommation. La biodiversité. Expansion constante de la biomasse de l'élevage au détriment des espèces sauvages. Pour le cerrado brésilien, 16 000 espèces menacées d'extinction. 70% des tonnes des zones jadis boisées du bassin amazonien sont aujourd'hui vouées au bétail. En 1970, 78 millions. En 1996, 153 millions. En 2006, 200 millions. 80 millions d'hectares de forêt tropicale brésilienne, bétail plus soja. Et vous avez une photo très significative où regardez l'exploitation et ce qui reste de la forêt amazonienne. Le Brésil, qui exporte 30% de viande de bœuf dans le monde, veut passer en 2018 à 60%. Le bovin est l'ennemi de la forêt, du climat et donc de l'homme, mais il rapporte des fortunes. C'est dans le bassin amazonien que les choses sont allées le plus loin. Le schéma est d'un classicisme confondant. 1. On construit une route où ces accès au nom du développement. 2. Les travailleurs descendent des camions des rancheros. 3. Ils défrichent un coin de forêt. 4. Les bovins se répandent sur ces fragiles prairies dont le sol peu épais s'épuise vite. Et 5. La parcelle est abandonnée et de nouveaux territoires sont défrichés. Il faut encourager l'agriculture et l'élevage bio. Le réseau agriculture durable, avec des systèmes autonomes et économes. Les trois quarts de la surface fourragère principale doivent être en herbe. Les OGM, farine animale, antibiotiques et hormones sont interdits. Les résultats économiques sont là, qui montrent que seules de nouvelles pratiques sont porteuses d'un avenir possible pour les hommes et les bêtes. Pourquoi choisir l'aliment bio ? Préserver la qualité de l'eau et de l'air en interdisant l'usage. Voilà. En interdisant l'usage des produits chimiques de synthèse. Réduire les risques de pollution par les nitrates. Apport d'azote limité, sol rarement nu en hiver, prairies comme source principale de l'alimentation des ruminants. Participe à l'harmonie des paysages ruraux, en raison de la nécessaire diversité des productions sur la plupart des exploitations. Entretient la biodiversité animale et végétale, en la respectant et en la développant. Améliore la fertilité des sols, et l'entretient en maintenant ou en augmentant sa teneur en humus par des apports organiques et des rotations longues. Contribue à la diminution des gaz à effet de serre, points de concentration animaux et de cultures poussées aux engrais chimiques. Et enfin, favorise une meilleure qualité alimentaire, plus de minéraux, une meilleure densité et une limitation de pesticides, engrais chimiques, antibiotiques et autres produits injectés par des piqûres en élevage industriel. Alors les fondamentaux de la bio, agriculture bio, élevage bio, les logos pour reconnaître, contrôle et certification. L'agriculture biologique adopte des attitudes et des pratiques rigoureuses dans la culture de ses végétaux. Respecte le rythme des saisons et les cycles de vie des plantes. Sélectionne des variétés végétales adaptées au terroir, aux conditions climatiques et naturellement résistantes aux parasites et aux maladies. Fertilise les sols principalement avec du compost issu de la ferme, plus des engrais naturels comme fumier, guano et algues marines. Désherbe manuellement, mécaniquement ou thermiquement, pas de désherbant. Protège les cultures par le maintien des haies. Grosse erreur de remembrement dans les années 65. L'introduction de prédateurs naturels, coccinelles, lutte intégrée, un travail qui a été fait depuis longtemps par l'INRA. Basé sur le respect de l'homme et de la nature, l'agriculture biologique se distingue par son mode de production particulier. Sans utilisation de produits chimiques de synthèse, sans utilisation d'organismes génétiquement modifiés. Elle s'appuie sur le recyclage des matières organiques, la rotation des cultures, la lutte biologique, le bien-être animal. Les élevages bio, des pratiques en cohérence avec la nature. Nourriture, exemple de produits chimiques de synthèse. Le système de culture élevage assure à long terme la fertilité des sols. Le nombre d'animaux par surface est limité. L'élevage pastoral est particulièrement adapté à l'entretien et à la valorisation des zones rurales. Pas d'utilisation d'OGM, farines animales, antibiotiques et hormones. Prise en compte du bien-être animal. Les logos pour reconnaître reconnaissance de l'agriculture bio par les pouvoirs publics en 1981. Le logo AB est la propriété exclusive du ministère de l'Agriculture et de la Pêche. Le logo européen complète l'étiquetage pour aider les consommateurs à repérer les produits biologiques. Contrôle et certification. Pour commercialiser des produits issus de l'agriculture bio, les entreprises doivent obligatoirement être contrôlées et certifiées par un organisme agréé. Norme européenne EN 450-11. Tout opérateur doit notifier son activité auprès de l'agence bio. Alors l'agence bio, actuellement dirigée par Elisabeth Mercier, qui regroupe deux ministères, l'agriculture et l'environnement. Les organismes de contrôle agréé en France, alors ils sont nombreux, ATLAV, AgroCert, ÉcoCert, Qualité France, SA et SGS ICS. En conclusion, si l'on veut avancer, il faut qu'un mouvement des consommateurs inédit se lève et modifie radicalement par ses choix quotidiens une industrie devenue folle et mortifère. C'est possible. Oui, mais ça revient pas. Se lève et modifie radicalement par ses choix quotidiens une industrie devenue folle et mortifère. C'est possible et c'est souhaitable. Les réseaux agriculture durable ou RAD, la Confédération paysanne, les AMAP, les réseaux de commerce bio. Le plan cancer 2, renouvelé par notre président pour la période 2009-2013, va coûter plus de 750 millions d'euros. Il le faut, c'est bien, pour la recherche, mais que fait-on pour la prévention? Le régime alimentaire est une arme de destruction massive. On peut traduire cela en nombre de kilomètres parcourus par une voiture au long d'une année. Un homme se passant de lait et de viande, consommant des produits bio, ne parcourt que 281 kilomètres. L'omnivore, consommateur lambda de nos sociétés, roule l'équivalent de 4758 km, 20 fois de plus. Je vous recommande de lire le rapport Campbell. Les protéines animales, même à dose faible, sont néfastes à la santé humaine. L'agriculture biologique. Réinventer le métier de paysan, né en réaction aux excès et aux nuisances de l'agriculture intensive. Plus que jamais, elle est un exemple de développement durable, une démarche scientifique de pointe, un projet social responsable. Le retour à une agriculture paysanne autonome. Alors il y a très longtemps, dans les années 20, nous avions Rudolf Steiner qui jeta les bases de l'agriculture biodynamique. Déjà, il mettait en garde contre les engrais chimiques qui peuvent tuer la terre, organisme vivant. Vous avez à Dornard le centre Goethe-Steiner, très intéressant à visiter. C'est une méthode de culture et de compostage basée sur l'emploi de substances végétales et minérales, capable de jouer un rôle de biocatalyseur en relation avec les rythmes cosmiques et telluriques. Pour ceux qui consomment des produits bio, vous avez pu remarquer la marque Demeter, qui est la marque des produits donc de l'agriculture biodynamique. En 1950, déjà, le docteur William Bass créa l'AFRAN, Association française pour une alimentation normale. Tout le monde a entendu parler de Raoul Lemaire et Jean Boucher, méthode Lemaire-Boucher. Le premier salon Marjolaine, Claude Aubert, qui, avec Terre Vivante, 4 saisons du jardinage depuis de longues années, milite et travaille pour l'agriculture bio. Un précurseur aussi, Henri-Charles Geffroy, avec les premiers magasins de la Bitlère. Les produits bio sont plus chers, de 10 à 30%. C'est dû aux méthodes de culture qui nécessitent plus de main-d'œuvre. du fait que ce mode d'agriculture est peu subventionné, si l'on reportait sur le consommateur les charges que l'État assume pour l'agriculture conventionnelle, c'est beaucoup de milliards d'euros, le rapport serait inversé. Donc voilà un petit peu ce pourquoi je milite depuis plus de 20 ans, et qui au départ était partagé par peu de monde, et qui à l'heure actuelle, on peut dire, fait maintenant de plus en plus des bulles, et c'est une vérité, une évidence qui est devant nos yeux, et chaque individu peut choisir, et chacun décide de ce qu'il peut faire pour la, pour nos enfants, pour l'avenir, et bien sûr pour sa santé, pour son bien-être. Alors, Martine va continuer dans la lancée. Philippe vous en reparlera. Les entretiens de Miancé qui ont lieu chaque année et auxquels nous participons, Martine y a participé, moi depuis de nombreuses années puisque j'assure l'alimentation bio-végétarienne des entretiens de Miancé. Un ouvrage a été réalisé à la suite de ces entretiens. Si certaines personnes sont intéressées, Philippe a dû en apporter quelques-uns. Mais mieux que moi, tout à l'heure, Philippe parlera de l'alimentation du futur.
Voilà. Est-ce que vous y voyez? Est-ce qu'on peut trouver un endroit où on éteint la lumière, peut-être? Non, hein? C'est compliqué. Bien. Alors, écoutez, d'abord, je vous remercie. C'est un plaisir de participer à cette table ronde. Je suis médecin gynécologue, comme vous l'a dit Jean Montagard. Vous pouvez vous demander pourquoi un médecin et gynécologue voilà, a pu s'intéresser. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je me suis investie dans ce domaine de la santé environnementale. Parce qu'en tant que médecin gynécologue, si vous voulez, la plupart des polluants chimiques environnementaux agissent sur le système endocrinien reproducteur. Donc c'est ainsi que je me suis intéressée, que j'ai commencé donc à colliger toutes les publications de scientifiques internationaux. Et il y a une dizaine d'années, c'est vrai que c'était quelque chose de très tout à fait pionnier. Et maintenant, je suis heureuse de voir que ça participe donc au projet, je dirais, c'est rentré dans la vie publique, ça participe donc aux intérêts de chaque consommateur, mais également les politiques s'investissent parce que c'est devenu une nécessité, non pas seulement sanitaire, mais également planétaire, puisque rien de ce qui se passe dans notre petit jardin tout a une influence au niveau planétaire, puisque tous les composés chimiques sont volatiles, et c'est un enjeu solidaire, solidarité avec nos enfants, mais aussi avec les générations futures, et puis avec les pays en voie de développement, parce qu'il n'y a pas que nous, hein, nous avons une surconsommation, mais les pays en voie de développement sont souvent souffrent à la fois de dénutrition, mais également de pollution chimique, je le montrerai. Alors, donc l'objet de ce travail que je vous propose, c'est de montrer comment les scientifiques se sont intéressés à l'action délétère, c'est-à-dire l'action nocive des polluants chimiques environnementaux, en particulier ce que l'on trouve dans notre alimentation, sur notre santé. Je voudrais préciser, parce qu'il faut être très rigoureux quand on est scientifique, pour ne pas annoncer des éléments qui sont radicaux et qui devront être donc faux. La preuve de l'action nocive sur la santé, elle est formelle chez l'animal. Vous le verrez, depuis des années, on a pu reproduire au laboratoire, en particulier sur les souris ou les rats. Je suis désolée pour les expérimentations animales, mais pour l'instant, c'est le modèle expérimental. On a pu reproduire toutes les pathologies que nous retrouvons chez nous, humains, c'est-à-dire l'augmentation de beaucoup de cancers du testicule, cancer de la prostate chez l'homme, mais aussi baisse de la fécondité, chez la femme, cancer du sein, des pathologies thyroïdiennes, des anomalies aussi du comportement, des lymphomes, toutes ces pathologies qui sont en augmentation dans la population humaine ont pu être prouvées scientifiquement chez l'animal. Les études toxicologiques humaines sont beaucoup plus compliquées. Et c'est pour ça que le débat est difficile, parce que nous, humains, nous avons une diversité génétique. C'est-à-dire que nous sommes, nous sommes inégaux devant cette pollution chimique environnementale, et en fonction de notre propre équipement enzymatique, qui est génétiquement déterminé, en fonction de nos modes alimentaires, c'est pour ça que c'est vrai que la consommation de viande peut être aussi un biais par lequel on va être davantage exposé aux polluants chimiques, environnementaux, donc du fait de notre équipement génétique individuel, de nos modes d'alimentation, nous allons être plus ou moins sensibles à ces polluants chimiques environnementaux. L'homme en voie de disparition, c'est un livre, ça a été le premier appel, je dirais, lancé par une très grande scientifique américaine, une femme à laquelle je rends hommage, qui est toujours en vie, qui s'appelle Theo Colborn. Le titre anglais, c'était « Our Stolen Future », c'est-à-dire notre futur volé, le futur de nos enfants avant tout. Il a été traduit sous ce titre, L'homme en voie de disparition, et dans cet ouvrage, Theo Colborn, qui dirige l'énorme centre de recherche, elle a rassemblé tous les travaux, en fait, des éthologues américains, c'est-à-dire les premiers à avoir été alertés, ce sont les chercheurs qui étudiaient la population animale. Et c'est ainsi qu'aux États-Unis, puisque c'était aux États-Unis et au Canada qu'on a lancé l'alerte, du moins sur les populations animales, vous verrez que les problèmes de santé humaine, c'est en Europe qu'ils ont été les premiers révélés, je dirais, par le professeur Vance Kekebeck, qui est un Danois, qui est professeur d'endocrinologie pédiatrique à Copenhague. Et c'est lui qui a mis le point et qui a tenté de mettre le parallèle entre les pathologies humaines et les pathologies animales. Donc, dans les années 60-70, aux États-Unis et au Canada, on a commencé à observer des choses étonnantes. Les alligators de Floride qui devenaient très doux, très gentils, alors qu'ils étaient connus pour leur agressivité, tout simplement parce qu'il y avait une usine qui répandait du difocol dans les fameux bayous de Floride. Et petit à petit, à micro-dose, ces alligators ont vu apparaître des troubles de la reproduction, des micro-pénis, un comportement très doux qui a alerté donc les scientifiques. Il y a eu ensuite les panthères des réserves de Floride qui se sont mis à avoir des goîtres, des troubles de la reproduction, les poissons des grands lacs qui eux aussi ont développé des goîtres et sont devenus avec une diminution de leur population parce qu'ils étaient stériles, et les cormorants du Canada que je cite toujours parce que ces cormorants, vous le verrez, ils arrivent en fin de chaîne alimentaire. Voilà, ici un schéma. Le cormoran ou le goéland argenté, ils arrivent en fin de cette fameuse chaîne alimentaire, je vais vous détailler, et ils arrivent à concentrer jusqu'à 25 millions de fois les polluants qui sont donc déversés dans, vous avez l'exemple des grands lacs américains, mais qui sont déversés dans les rivières, de par les eaux de ruissellement, de par le caractère volatile de ces polluants environnementaux. Vous voyez que le plancton animal, plancton végétal, sont mangés par des petits crustacés, qui vont être mangés par des petits poissons, qui vont être mangés par des moyens poissons, et le cormoran, qui arrivait en fin de cette chaîne alimentaire, mais il y a le cormoran, mais il y a aussi l'ours blanc, l'ours polaire, il y a le dauphin, dans nos régions méditerranéennes. Mais ces cormorans, ils ont alerté les chercheurs parce que ils avaient un comportement qui n'était plus du tout le comportement mâle. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus le réflexe de protéger les couvées des femelles. Et la première des choses qui a alerté, c'est que les nids ne contenaient plus seulement que 3 œufs, comme traditionnellement pour les cormorans femelles, mais il y avait 6 œufs, parce que c'était les femelles qui étaient obligées de s'organiser en couple pour protéger leur nichée, et en plus elles couvaient désespérément des œufs qui n'avaient pas été fécondés, donc qui n'éclosaient jamais. Et ça, les chercheurs en biologie animale ont lancé l'alerte, et ce sont eux qui les premiers ont mis le point sur cette pollution chimique environnementale qui touche en fait tout le vivant. Parce que c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'il y a une espèce d'atteinte du vivant, et vous le verrez, donc ces composés sont reprotoxiques, c'est-à-dire qu'ils agissent sur la reproduction. Ils sont cancérigènes, parce que par différentes actions toxiques sur la cellule, et ils sont mutagènes, c'est-à-dire que les chercheurs commencent à suspecter, et encore une fois, je voudrais rester très rigoureusement scientifique, chez l'homme, nous n'avons que des arguments de forte présomption. De très fortes présomptions. On commence à voir, et il en sort maintenant tous les 2 ou 3 mois, des études beaucoup plus précises, mais autant chez l'animal c'est prouvé, chez l'homme c'est des arguments de fortes présomptions, c'est-à-dire que le génome même, c'est-à-dire nos gènes, sont atteints en fonction, encore une fois, de nos équipements enzymatiques. Heureusement, tout le monde ne va pas être atteint de la même façon, mais certains individus vont être plus sensibles et vont, eux, avoir des actions sur leurs gènes qui peuvent se transmettre, et ça les chercheurs maintenant l'ont observé chez la souris, de façon transgénérationnelle. C'est-à-dire que ce ne sera pas seulement l'individu, mais sa descendance qui pourra être atteinte. Alors ensuite, alors quels sont-ils? Je vous montrerai après les pathologies. Alors quels sont-ils? Bon, maintenant ils sont connus. Il y a les pesticides organochlorés. Maintenant, vous savez qu'ils ont été pratiquement, ils sont pratiquement disparus. Maintenant, ce sont des organophosphorés que l'on utilise. C'est le DDT qui a été le plus largement utilisé. On pense qu'actuellement, il n'y a pas un seul individu, un seul être vivant, même animal, qui n'ait pas de résidus de DDT dans le sang. Que ça soit du plus petit animal jusqu'à l'humain, que ça soit de la Méditerranée à l'Antarctique, parce que ces composés, encore une fois, ils sont volatiles et ils ont un grand temps de rémanence. On pense que le DDT, c'est pas seulement le DDT, mais c'est son produit de dégradation, qui s'appelle le DDE, il a un temps de rémanence et de persistance qui peut aller jusqu'à 50 ans dans l'univers et également dans nos tissus biologiques, c'est-à-dire le sang, mais surtout le tissu graisseux. Et c'est pour ça que c'est surtout nous, les femmes, qui sommes touchées dans cette pollution chimique environnementale, parce que ces composés, ils sont essentiellement, ils sont hydrosolubles, mais surtout liposolubles. C'est-à-dire qu'ils vont se concentrer dans les tissus graisseux, d'où l'intérêt aussi de cette alarme, je dirais, que l'on peut lancer sur les produits animaux, le lait, les œufs, la viande, les fromages, qui sont riches en tissus graisseux et qui vont concentrer davantage encore que les végétaux, que les fruits et les légumes, ces fameux polluants chimiques environnementaux. Donc vous commencez à saisir un peu tous les aspects de cette intoxication. Alors pourquoi est-ce que les scientifiques, et puis surtout les industriels, très longtemps ont résisté? On dit mais ça n'est pas possible, nous ne vendons pas sur le marché des pesticides, des herbicides, des fongicides sans contrôle. Il y a des normes toxicologiques, exactement comme pour des médicaments, parce que les normes qui ont été utilisées pendant des années ne correspondent plus à ce mode d'intoxication. C'est-à-dire que ce n'est pas un effet dose. C'est-à-dire que auparavant, jusqu'à présent, on disait quelques milligrammes ne vont pas avoir d'action. Quelques milligrammes d'arsenic peuvent avoir une action mortelle. Mais ces pesticides, il faudrait une énorme intoxication pour provoquer une anomalie ou une action. Alors que les scientifiques ont montré chez l'animal qu'il s'agit en fait de microdoses ingérées sur des années qui vont se bioaccumuler dans les tissus biologiques. Et c'est cette action-là, c'est complètement différent de la notion de toxicologie qu'on avait avant, où on disait qu'il faut beaucoup de toxiques pour provoquer un effet délétère sur la santé. Là, ce sont des microdoses et cette ingestion, je dirais, cette imprégnation, elle commence dès la vie intra-utérine, je vais vous le montrer. Ensuite, bon, tous les pesticides, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de cette communication. Les polluants industriels, je voudrais insister sur le PCB, parce qu'on a un groupe très important maintenant de médecins dans la région PACA, qui sont surtout au niveau d'Aix-Marseille, qui ont depuis 2 ou 3 ans fait des dosages de PCB sur les poissons du Rhône et qui ont mobilisé à tel point les pouvoirs publics que les préfets ont interdit la consommation des poissons du Rhône, qui sont extrêmement imprégnés de PCB, qui sont des polluants chimiques, qui sont en fait des polluants qu'on trouve beaucoup, en particulier dans les isolants électriques. Et ces PCB sont des imposteurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils interfèrent, vous le verrez après, avec nos glandes endocrines, que ce soit les ovaires, les testicules ou la thyroïde. La dioxine avec ses vaisseaux, je n'y reviendrai pas, on peut en parler après. Les bisphénols A, alors je vais insister sur les bisphénols A et les phtalates. Les bisphénols A, et bisphénol A, ce sont des produits d'assouplissant des plastiques. Et on en a beaucoup parlé dans la presse, on en parle encore beaucoup actuellement, parce qu'on les trouve beaucoup dans les jouets des enfants, et on les a trouvés beaucoup surtout dans les fameux biberons. On les trouve également dans toutes les boîtes de conserve. Lorsque vous avez une boîte métallique, cette boîte souvent est garnie dans son intérieur par une pellicule de plastique qui contient du bisphénol pour l'assouplir. Donc, il y a un petit relargage spontané, mais ce relargage, on s'est aperçu qu'il est surtout important lorsqu'on le chauffe. D'où cette polémique sur le chauffage des biberons, que ce soit au micro-ondes ou même dans de l'eau chaude. Je veux dire, quelquefois, les mamans, elles font réchauffer dans une eau bouillante le biberon en plastique. Eh bien là, il y a un fort relargage Et donc, il y a eu une sensibilisation, en particulier par le professeur Patrick Pédichel, qui est professeur d'endocrinologie à Nice, et qui anime une unité INSERM à Nice, s'est beaucoup intéressé, il a fait une publication qui est récemment parue, et il a été appelé dans l'hémicycle, je dirais, il y a eu une commission parlementaire de députés français, devant lesquels il a communiqué au mois de... c'était au printemps, et où il y a maintenant des précautions qui sont prises, et du moins une alerte, et tout un groupe qui est mis en place, et on alerte les mamans sur ce danger des biberons, qu'il ne faut surtout pas chauffer, et il faut donner la préférence maintenant aux biberons de verre. Pourquoi est-ce important d'agir sur toute l'alimentation qui va toucher le petit enfant et le bébé? Parce que, je vous l'ai dit, c'est une micro-imprégnation sur des années qui va être délétère, donc c'est dès la petite enfance qu'il faut agir, premièrement. Et deuxièmement, c'est parce que nous allons être d'autant plus sujets à l'action dangereuse de ces produits que nous avons une multiplication cellulaire rapide. C'est-à-dire que c'est l'enfant de sa naissance, de la vie intra-utérine jusqu'à la puberté. Il y a bien sûr une croissance de tous les tissus, donc une vitesse de multiplication cellulaire qui est très importante. Et c'est cela qui rend les enfants, les jeunes enfants jusqu'à la puberté, plus sensibles à ces polluants chimiques environnementaux. Bisphénol, bon, les cosmétiques, je peux insister également, parce que beaucoup de cosmétiques contiennent des produits chimiques qui sont des perturbateurs. Encore une fois, on met en garde les mères. Ce sont les pays au Danemark, là, depuis 5 ou 6 ans, il y a systématiquement, dans les dossiers que l'on donne aux femmes enceintes, des feuilles qui mettent en garde contre l'utilisation de ces fameuses lingettes qu'on utilise, des couches également, de toutes ces couches jetables, qui sont blanchis au chlore et qui peuvent avoir une action délétère. Et puis il y a également le parabène, qui a été récemment incriminé, on va dire. Alors ce n'est pas si simple, le parabène ne donne pas le cancer du sein, les pesticides ne donnent pas le cancer du sein, parce qu'encore une fois, il faut être très rigoureux dans... Mais il y a, les parabènes sont des perturbateurs endocriniens, et ils peuvent, chez certaines femmes prédisposées, avec des doses importantes sur des années, chez certaines femmes qui vont avoir d'autres facteurs de risque, ils peuvent être un cofacteur du cancer du sein. Là, je vous les ai séparés parce que certains sont persistants bioaccumulables, c'est ce qu'on appelle les POP, les polluants organiques persistants, c'est-à-dire qu'ils vont rester longtemps dans notre organisme, comme le PCB, le DDT, etc. Et d'autres sont peu bioaccumulables, mais c'est la répétition sur des journées, comme les bisphénols, ils s'éliminent très rapidement. Les phtalates et les parabènes, eux s'éliminent très rapidement, ce qui est une bonne chose, mais ils peuvent sur des années être délétères. Les polluants, ben, quelques chiffres, bon, c'est 100 000 substances chimiques au niveau européen, et vous le savez, je voudrais juste insister sur celui-ci, c'est que la France est le troisième, c'est le premier utilisateur européen de pesticides et de produits dans l'industrie agroalimentaire, enfin... agricole, excusez-moi, premier utilisateur de pesticides européens à l'hectare, et c'est le troisième rang mondial quand même, et je me réjouis que le Grenelle de l'environnement se soit donné comme projet, j'espère que cela sera efficace, puisque cela est mis en place depuis 15 à 20 ans dans les pays nordiques. Donc le Grenelle de l'environnement a proposé une diminution de près de 50%, enfin il y a d'autres spécialistes que moi, des produits, des pesticides dans l'alimentation d'ici 2020. C'est ce qu'a proposé donc le Grenelle de l'environnement. Alors, juste insister sur donc ce terme de CMR, puisque CMR, c'est cancérigène, mutagène et reprotoxique, qui sont donc les trois modes d'action prouvés chez l'animal et fortement suspectés chez l'homme, et qui seraient à l'origine de l'augmentation de ces pathologies que je vous ai énumérées, dont je vous ai déjà parlé. Chez l'homme, vous savez qu'il y a une baisse de la qualité du sperme, que l'on observe depuis maintenant une quinzaine, vingtaine d'années. Il y a moins 30% en numération, moins 15% en mobilité, c'est-à-dire que les hommes sont de plus en plus hypoféconds, et on pense que c'est donc une imprégnation dès la vie intra-utérine, des testicules, qui peut être responsable de ces pathologies. Le cancer du testicule, qui était un cancer très très rare de l'homme jeune, il augmente de 2% tous les ans depuis 10 ans. Donc plus 2%, plus 2%, plus 2%, plus 2%, ça fait une augmentation exponentielle. Le cancer de la prostate aussi, il a triplé dans les 15 dernières années. Le cancer du sein, il a augmenté de plus de 60%, vous le savez, et pas seulement parce qu'on le passe grâce à un meilleur dépistage, qui est fondamental bien sûr, mais il y a 60% d'augmentation du cancer du sein. Et vous le savez, c'est très intéressant, c'est que le docteur Anne va nous en parler tout à l'heure, pardon, parce que je n'arrive pas à retenir ton nom vietnamien, tu nous le diras tout à l'heure, mais il est là. Donc, vous savez qu'il avait, sur le plan génétique, maintenant, les Japonaises ont très peu de cancers du sein, et lorsqu'elles vont vivre aux États-Unis, elles ont, au bout de 20 ans, le même taux de cancer du sein que la population américaine. Ce qui veut bien dire qu'il y a des facteurs environnementaux, certes, mais aussi des modes alimentaires qui vont jouer dans cette imprégnation en toxique. Les pathologies thyroïdiennes, les troubles cognitifs chez l'enfant, les lymphomes. Bon, il y a une étude en Suède où les Suédois ont diminué de 50% l'utilisation de leurs pesticides dans les 10 dernières années. J'avais assisté à l'UNESCO, donc il y a un peu plus d'une année, à une conférence, une grande conférence internationale, et un chercheur spécialiste des lymphomes avait montré sur une courbe qu'ils avaient observé, ce qu'on appelle des études observationnelles, qu'il y avait eu, parallèlement à la diminution de l'utilisation des pesticides, dans les années qui ont suivi, une diminution très nette des lymphomes chez les jeunes Suédois. Alors là, c'est quelques caractéristiques des perturbateurs endocriniens. Je ne vais pas tous vous les citer. Je voudrais que vous reteniez que ces polluants chimiques environnementaux, dont vous avez vu, c'est les pesticides, les herbicides, les produits industriels, mais c'est aussi ces produits industriels, on les trouve dans tous les éléments de notre vie domestique. Ce sont les colles de nos papiers peints, ce sont les vernis des lits pour enfants, ce sont les tissus imprégnés de substances qui les rendent non inflammables, ce sont ce qu'on appelle les retardateurs de flamme bromés que l'on trouve dans les ordinateurs, que l'on trouve par sécurité dans tous les instruments, je dirais, électriques. Ce sont les produits d'entretien quotidien, votre plise, votre, je ne veux pas citer de marque, mais les produits, voilà, tous ces produits, ce sont les déodorants qui sont extrêmement toxiques, tous ces déodorants d'intérieur, la pollution chimique domestique à l'intérieur des maisons, et ça c'est les Belges qui l'ont montré, est quelquefois plus importante que la pollution extérieure, et c'est pour ça que c'est très important. D'abord, de ne pas repeindre, comme font les jeunes parents souvent, la chambre des bébés 3 mois avant la naissance, ça c'est extrêmement, c'est une aberration. Si on veut repeindre, il faut repeindre bien longtemps avant, ou ne pas repeindre, nettoyer, il faut éviter les moquettes, il faut éviter les lits pour enfants avec des peintures neuves, il y a toutes sortes de précautions, parce que la pollution domestique dans les maisons est quelquefois plus importante que cette pollution extérieure. Donc, vulnérabilité des enfants, passage transplacentaire, susceptibilité individuelle, ça je veux à nouveau insister, parce qu'on est tous inégaux, autrement on serait déjà, pour la grande part d'entre nous, déjà tous malades. Heureusement, la nature peut quand même faire bien les choses. Nous avons des capacités de détoxication naturelle de par des équipements enzymatiques, en particulier au niveau du foie. Mais nous ne sommes pas tous équipés de la même façon. C'est-à-dire que certains individus vont détoxifier très rapidement et très efficacement ces polluants extérieurs, et d'autres vont avoir des capacités moindres. Mais, alors ça, personne ne peut le savoir, mais les chercheurs ne savent pas encore distinguer quelle est la personne qui sera plus ou moins exposée. Par contre, ce que l'on sait, c'est que moins on s'expose, moins on a de risques, et plus on a par ailleurs un mode de vie sain, et qui repose sur plusieurs axes, c'est-à-dire l'éviction au maximum des polluants chimiques environnementaux dans l'alimentation, dans l'environnement, mais aussi une vie plus saine avec moins de produits carnés, plus de fruits et légumes, une activité physique régulière, et vous le savez, un des derniers éléments qui est quand même un équilibre, l'activité physique très importante, et un équilibre psychique, psycho-émotionnel, voire spirituel important. Tout ça, ce sont des éléments. Il n'y a pas que le manger, il y a aussi le bien vivre dans son sens large, et je voudrais aussi que le message soit que le choix de notre orientation alimentaire, c'est-à-dire manger moins de viande, ou pour certains supprimer complètement les produits laitiers, ou manger bio exclusivement, ça doit être un choix du cœur, et non pas un choix de la peur, parce que beaucoup de gens qui viennent assister à ces conférences, ou qui vont dans les magasins bio, ou qui sont des phobies de la maladie. Or, ce n'est pas par ce choix-là, ça doit être un choix pour la vie, un choix pour une meilleure vie, un choix solidaire pour nos enfants et les générations futures, qui doit nous guider vers une meilleure prise en compte de notre alimentation. Là, c'est le mode d'action, je ne vais pas insister, où on vous montre comment donc ces perturbateurs endocriniens viennent se fixer sur les récepteurs pour modifier donc la réponse œstrogénique, androgénique, thyroïdienne, mais viennent également masquer et modifier le DNA, l'ADN, l'expression des gènes par des anomalies qu'on appelle épigénétiques. C'est-à-dire que ce n'est pas le gène lui-même qui est atteint, mais son expression. Ce sont des considérations scientifiques un peu précises, mais alors pardon, parce que là, on n'y voit pas très bien avec la lumière. Ça, c'est une hypothèse. Comment est-ce que, donc, c'est une synthèse, ce que je viens de vous dire. L'exposition aux polluants, elle va agir très précocement dès la vie embryonnaire. Elle va donc agir sur le nouveau-né, mais ces polluants ne sont pas seuls en cause. Ils vont interférer avec notre susceptibilité génétique individuelle, notre environnement plus ou moins pollué, que ce soit à l'extérieur ou dans nos maisons, et nos modes alimentaires. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de cofacteurs qui vont jouer dans la genèse des pathologies que je vous ai citées, les cancers, les troubles cognitifs, mais également les anomalies cardiovasculaires. On pense, et le diabète. On pense maintenant que l'obésité et le diabète, pour une grande part, ils sont dus à cette malbouffe, mais ils sont, excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'on utilise, mais ils sont dus aussi à une prédisposition dès la vie intra-utérine de certains individus qui, l'effet de ces polluants, vont avoir une sorte d'environnement, ce qu'on appelle inflammatoire. On parle beaucoup actuellement d'alimentation pro-inflammatoire, des facteurs de croissance qui peuvent être favorisés par une exposition précoce. Donc l'obésité, c'est pas seulement le trop manger et le pas assez bouger, ce qui sont deux facteurs fondamentaux, mais pour certains individus, en fonction de leur équipement enzymatique, il va y avoir aussi un facteur d'exposition précoce à ces polluants chimiques. Donc vous voyez l'importance. Alors je vais aller assez vite sur le cancer du sein pour vous donner les messages qui me semblent quand même fondamentaux. L'importance de l'éviction, donc d'éviter au maximum les polluants chimiques pour les jeunes femmes, c'est-à-dire les femmes qui sont susceptibles d'être mères dans les 15 ou 20 années, parce que c'est nous les femmes qui transmettons par voie transplacentaire, parce qu'on a accumulé, vous l'avez compris, dans les tissus graisseux, ces polluants. Donc, deux cibles essentielles dans une politique de santé, je dirais, ça serait un message qu'on pourrait lancer aux politiques, les femmes et tous les enfants, filles ou garçons, jusqu'à la puberté, puisque je vous ai expliqué que du fait de la multiplication cellulaire rapide, ils sont plus sensibles aux polluants. Je vous donne l'exemple d'études. On a la chance à Nice d'avoir une unité INSERM qui travaille sur ces sujets. Alors, elles se sont multipliées depuis en France et bien sûr dans le monde, parce que maintenant les études, il en sort, nous en avons énormément, mais à Nice, on a la chance d'avoir un travail qui a été publié récemment, qui a commencé il y a 4 ans. On a récupéré au niveau du sang du cordon des nouveau-nés des pesticides. On a dosé 15 pesticides, on a dosé aussi des bisphénols, et on les a dosés aussi au niveau du lait maternelles, et on s'est aperçu que tous les enfants nouveau-nés avaient dans le sang du cordon déjà à la naissance ces pesticides, et pourtant on n'est pas dans une région très agricole, donc je vous laisse supposer ce qu'il en est de la Bretagne ou du Poitou, des régions très très agricoles et donc très imprégnées. Et pour la première fois en France et même dans le monde, enfin parce qu'il y a eu après d'autres papiers qui sont sortis, on a montré que plus le dosage de certains de ce cocktail de pesticides était important, plus les enfants avaient de risque de présenter ce qu'on appelle une cryptorchidie, c'est-à-dire une absence de descente du testicule à la naissance. Hein? On s'est aperçu que, vous savez que c'est à peu près 2% des garçons. 2% des garçons naissent avec un testicule qui n'est pas encore descendu dans la bourse, qui est toujours en position, ça s'appelle intra-abdominale. Et on s'est aperçu que c'était corrélé à un dosage de pesticides important. Donc ça, c'est un travail très important. De même, le sang maternel. Je maintiens, l'allaitement maternel est quand même le meilleur aliment pour l'enfant, le lait maternel, mais dans les premiers jours, il y a une concentration très importante, parce qu'encore une fois, le lait, c'est un produit graisseux, très importante de ces polluants. J'ai bientôt fini. Je suis gynécologue, je viens de vous faire médecin, je viens de vous faire donc un exposé sur les éléments scientifiques, mais comment corréler avec le bio? Bien parce que pendant longtemps, on a dit, mais dans le bio, finalement, il y a à peine un peu moins de pesticides, et puis comment être sûr, etc. Et la plupart des études qu'on lisait, c'était quelques échantillons de produits bio contre quelques échantillons de produits non bio, mais finalement, ça coûte 20% plus cher et il y a à peu près autant de pesticides. Donc je voudrais citer cette étude qui est peu connue, mais qui est parue en 2000, du CETRAM, c'est le syndicat des producteurs d'aliments biologiques. C'est pas une étude sur 4 produits, 4 paquets de carottes, c'était sur 15 000 échantillons bio. Cette étude est peu connue, mais c'est une étude très sérieuse. En plus, elle a été parrainée par le ministère de l'Agriculture et de la Pêche en France. Et on s'aperçut que 94% de ces échantillons bio français, parce qu'encore une fois, les normes européennes ne sont pas les mêmes, étaient pratiquement, il y avait bien sûr des pesticides, puisque la pureté maintenant n'existe plus, mais ils étaient indosables. Et on ne trouvait que 2% de produits bio qui avaient autant de pesticides que les produits de consommation courante. Ce qui veut dire que quand vous achetez bio, bien sûr, on paye plus cher, mais si vous achetez bio pour vos enfants, voilà, ou vos petits-enfants, vous êtes sûr à 94% qu'il n'y a pratiquement aucun produit chimique délétère dans ces produits. Il y a eu des études aussi faites sur des enfants qui mangeaient bio et des enfants qui ne mangeaient pas bio. Ça, c'est une scientifique à Washington, américaine. Après 3 jours, j'ai fait une faute, excusez-moi, il manquait. Après 3 jours d'alimentation bio, c'était des enfants d'une crèche, on avait dosé des pesticides dans les urines, on s'est aperçu qu'il y avait 6 fois moins de pesticides dans les urines après 3 jours d'alimentation. Bon voilà, les études maintenant sont énormes. Alors c'est ce qui m'avait amené il y a déjà 10 ans. Il y a 10 ans, c'était une lettre pionnière. J'avais fait une action à Nice. Et c'était une lettre qui a été signée par 3500 familles niçoises qui demandaient la promotion de l'alimentation biologique dans les crèches et les cantines. Et cette étude avait été entendue non pas par la mairie, je regrette parce que Daniel Benchimol qui était ici présent, qui est un ami puisque bon, on a été interne ensemble, maintenant il est professeur, bon. Mais il sait bien que la mairie ne s'était pas investie, mais la société de distribution à l'époque, qui était Azur Restauration, s'était investie. Et on avait été une des premières villes de France, puisque petit à petit, 150 000 repas bio ont été servis par an, pendant 4 ans, dans la ville de Nice. Toute la viande de bœuf était bio, et il y avait un repas bio par mois, ce qui est peu finalement. Mais c'était tout bio, ce qui fait que c'était faisable. Et c'était tout bio, c'était régulier, et ça a été produit sans surcoût pour les familles. Ça s'est arrêté en 2005, choix politique, voilà, et j'espère que maintenant, avec le Grenelle de l'environnement, ça sera remis au goût du jour. Alors, défendre l'agriculture paysanne et familiale, un enjeu pour nourrir et préserver la planète, tout en étant médecin, c'est vraiment un message que je veux faire passer, c'est-à-dire que l'agriculture productiviste et industrielle, vous l'avez compris, et puis Jean vous l'a montré, elle entraîne la déforestation, la pollution, la suppression des agricultures vivrières, donc c'est une atteinte à l'environnement, mais avant tout à l'homme, et il faudrait réorienter notre agriculture vers une agriculture, ce qu'on appelle paysanne, qui est tout à fait rentable, économe en eau, non polluante, qui respecte la biodiversité, assure une alimentation de proximité. Je ne suis pas une spécialiste de ces sujets, mais j'en suis convaincue. Voilà, donc les perturbateurs endocriniens, une catastrophe écologique du 21e siècle, eh bien, oui, à bas bruit, hein, donc il faut agir. Manger bio, donc je vous l'ai dit, en priorité pour les enfants, les futures mères, mais aussi sobriété, c'est un grand message, l'équité, la responsabilité. Et un enjeu aussi de solidarité, parce qu'on n'est pas seul en jeu. Et vous le savez, la plupart des produits pauvres récupèrent nos pesticides pollués. Voilà, donc nos polluants dont on veut se débarrasser. Je vous remercie. Je laisse la parole à Philippe Desbrosses. Est-ce que tu as... Je vais continuer, alors je ne sais pas, est-ce que vous voulez qu'on continue par des questions ou... Alors, quelques questions, voilà, on va vous faire participer. Est-ce que vous avez des questions sur la communication de Jean Montagard sur l'élevage? Oui, mais c'est Philippe qui me le demande parce qu'il n'est pas prêt. Peut-être une question, simplement, peut-être, entre...
Je peux parler fort. Je vais faire la remarque sur le panel que si nous ne sommes pas une région agricole les jardins sont aussi source de polluants extrêmes et je crois que les utilisateurs particuliers arrivent au premier rang des pollueurs en France pour la bonne raison qu'ils ne savent pas ce que certains producteurs agricoles savent déjà. Ils ont tendance souvent à surdoser. Et quelque part, ils estiment que pulvériser un rosier, il y a moins d'incidence qu'une tomate, ce qui est complètement faux.
Je voudrais signaler, pour rebondir sur ce que vous dites, sur les espaces verts dans les villes, qui sont très importants et qui sont traités avec énormément de pesticides et d'herbicides et Moi, j'étais effrayée quand j'amenais mes enfants au jardin public de voir le casqué et masqué, donc les employés de la mairie qui détruisaient les fourmis le long des jardins où les enfants allaient s'ébattre le long des pelouses. J'ai trouvé ça vraiment aberrant. Et vous savez que la ville de Rennes, depuis 5 ans, a mis en place, donc c'est possible, la ville de Rennes. Et Paris commence aussi avec... depuis longtemps. Alors, Rennes a été pionnière quand même en France, hein, mais c'est bon, Paris maintenant. Et je sais que Monaco qui est tout près, utilise ce qu'on appelle la lutte biologique, c'est-à-dire les prédateurs naturels. Il y a la coccinelle, mais il y en a bien d'autres. Et il y a le désherbage manuel. Enfin, il y a toutes sortes de techniques qui peuvent être mises en place pour supprimer l'épandage de produits chimiques, bon, dans les jardins des particuliers, mais aussi dans les espaces verts publics où jouent les enfants. Et je vous ai dit que ce sont des cibles très, 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 très désignées pour ce problème. Philippe Desbrosses, et ça y est, tu veux le micro?
Si vous voulez bien, oui, je veux bien. Merci. Bon après-midi à tous. Donc, évidemment, moi, quand j'écoute Jean et quand j'écoute Martine, ça me replonge à 40 ans en arrière, quand on a commencé à mettre en place l'agriculture biologique en France et en Europe, parce que j'ai eu cette chance historique de me trouver à l'origine de la plupart des mouvements. La création des mouvements et de la certification en agriculture biologique, et je suis toujours d'ailleurs chargé de mission normalement auprès du ministre de l'Agriculture pour le programme bio dans le cadre du Grenelle. Voilà, donc ces 40 ans d'expérience et tout ce que j'entends montre que bien tous ces arguments ont été pris en compte et puis assimilés très 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 bien par les plus jeunes maintenant, qu'ils soient médecins ou cuisiniers. C'est vraiment très important que toute la société, tous les métiers, tous les citoyens, tous les gens responsables se rendent compte que nous devons changer complètement notre mode d'alimentation et notre mode de production alimentaire. Pourquoi ? Il y a des choses absolument incontournables. Je ne sais pas si c'est branché, mais je risque d'avoir la batterie qui flanche tout à l'heure. Donc, je ne sais pas s'il y a une rallonge pour pouvoir brancher le... Il n'y a pas de rallonge. Non, c'est pour le cas où... Donc, je fais simplement un panorama très rapide. Mais... extrêmement impressionnant, parce que jamais on fait cette synthèse de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui montre que, de gré ou de force, et c'est pas une question d'idéologie, on va devoir changer complètement notre comportement et notre mode alimentaire et tous nos comportements sur la Terre. Voilà. Et ça, parce que nous vivons une situation tout à fait unique dans l'histoire. Pour la première fois, on n'a jamais été aussi nombreux sur la Terre. Et surtout avec une population qui ne s'occupe plus de la Terre. Une population qui ne soigne pas la Terre. Qui, pour parodier mon ami Pierre Rabhi, est une population hors sol. Qui n'a plus aucun contact et même qui n'a plus aucune idée... d'où provient sa nourriture et de l'impact des méthodes agricoles sur la qualité de la nourriture et ensuite sur la santé. Donc, tout ça, cette rupture-là, provoque cet abandon de l'environnement, ce comportement chaotique de l'humanité à l'égard de son environnement. Et bien entendu, la répercussion se retrouve sur la santé générale des populations. D'ailleurs, j'aime souvent... reprendre cette maxime de la sagesse ancienne qui déjà, au temps d'Héraclite, de Socrate et tout ça, avait mis en évidence le lien étroit qu'il y a entre santé-environnement, alimentation-santé-environnement. Quand Héraclite disait il y a 2500 ans que la santé de l'homme est le reflet de la santé de la Terre, ça fait un bond jusqu'à nos jours où David Servan-Schreiber dit « On ne peut pas vivre en bonne santé sur une planète malade. » Et on ne peut pas nier que la planète ne soit pas malade. Quand on observe d'abord la contamination dont on vous a parlé tout à l'heure, généralisée, et puis surtout la dégradation des sols, la disparition de nos terres arables, c'est-à-dire la base même de notre sécurité alimentaire et de notre avenir, que sont les sols. Est-ce que vous savez qu'on a perdu en 30 ans 30% des terres arables sur la planète? On a un hectare qui passe au désert toutes les 4 secondes à l'heure actuelle. Et ça fait plusieurs décennies que ça dure. Est-ce qu'on peut continuer réellement dans ce maelstrom, dans cette folie, quand dans le même temps nous détruisons les sols, on a 3 bouches de plus à nourrir à chaque seconde sur la Terre? C'est-à-dire qu'on est dans une explosion nucléaire et on ne s'en rend pas compte. Mais on sait très bien qu'à un moment donné, il va y avoir une rupture grave et définitive. Il vaudrait mieux l'anticiper et prévoir déjà les positions de repli. Pour moi, les positions de repli, c'est le retour à la Terre. J'ai écrit il y a 25 ans, nous redeviendrons paysans, tellement j'ai constaté que notre système devenait vulnérable, fragile et dangereux du fait de cette sophistication, cette artificialisation du vivant qui fait que le moindre grain de sable dans la machine, tout s'écroule. C'est vrai pour d'autres productions, mais c'est encore plus vrai pour les sols, parce que manger est un acte extrêmement important, et je dirais un acte politique majeur, puisqu'on mange 3 fois par jour et 365 jours par an. Ça veut dire qu'en mangeant, et nos coups de fourchette façonnent le monde dans lequel on vit, modifient le visage de la Terre. Des millions de fois répéter la même erreur, ça fait une catastrophe. L'épuisement des ressources, j'ai parlé de la démographie, parmi les raisons importantes que l'humanité n'a pas connues auparavant, le nombre de rationnaires de vivants sur la Terre, 6 milliards, bientôt 9, etc. Bon, on sait très bien que ça ne pourra pas continuer indéfiniment, parce qu'on va finir par s'empoisonner par nos déchets. Du fait qu'on ne sait pas recycler nos déchets. On ne parle pas, on n'est pas dans un fonctionnement durable, parce qu'autrefois, l'environnement pouvait supporter, ou en tout cas recycler, les déchets que nous produisions. Parce que ces déchets étaient recyclables. Aujourd'hui, ce sont des montagnes de déchets qui ne sont pas recyclables. Avec tous les produits de l'industrie, toutes les matières synthétiques qui ne sont pas recyclables par l'environnement. Les déchets d'une végétation, d'une production, servaient de richesse pour la végétation ou pour la génération qui venait, et ainsi de suite. Ça, c'est le développement durable. C'est fini. Enfin, c'est fini. C'est défini pendant les 30 désastreuses. Je n'appelle pas les 30 glorieuses, mais les 30 désastreuses. L'épuisement des ressources nous frappe de plein fouet. Mais dans des endroits où on s'y attend le moins, où on ne s'y attend pas du tout. Bien sûr, au niveau des eaux, des terres arables, des énergies fossiles qu'on utilise en majorité dans l'agriculture industrielle. Je fais juste une parenthèse pour vous faire percevoir la différence ou la différence, oui, de situation dans laquelle nous vivons par rapport à une époque qui a laissé des traces extrêmement profondes dans l'inconscient collectif. Vous avez tous entendu parler, si vous n'en avez pas subi, des tickets de rationnement dans la période 39-40, où là, il y avait une raréfaction des produits alimentaires, parce que quand il y a les guerres, c'est très bien, déplacement de population, la première des choses, c'est qu'on met en péril notre système alimentaire. L'agriculture se fonde sur le long terme. Si vous déplacez les populations, si vous perdez vos semences, c'est catastrophique. Vous perdez la chaîne, vous rompez la chaîne et on ne peut plus se rattraper. Et je vous fais simplement remarquer qu'en 39-40, la population française était encore à 34% rurale. Avec les ceintures maraîchères autour des villes, une imbrication très importante entre les urbains et les agriculteurs. Aujourd'hui, la population rurale en France, mais d'une manière générale dans le monde, dans les sociétés développées, elle est tombée à 2%. C'est-à-dire qu'il y a un tout petit nombre de producteurs qui pourraient ou qui devrait, et ça continue à diminuer, nourrir l'ensemble de la population mondiale, comme une pyramide qu'on tiendra à l'envers, avec très peu de gens proches de la Terre pour soigner la Terre. Et en même temps, je vous fais remarquer aussi que ces 34% d'acteurs ruraux dans la période 39-40, la période difficile avec les tickets de rationnement, étaient totalement indépendantes en matière d'énergie, puisqu'elles produisaient elles-mêmes l'énergie pour sa traction animale. Je voulais simplement imaginer aujourd'hui, si on retombait dans la même situation, ben même les tickets de rationnement, ça ne servirait plus à rien. Je dis d'une manière très brutale, ce ne sont pas des tickets de rationnement qu'on distribuera, mais des cercueils. Et ce, en très peu de temps, parce qu'une pénurie ou une rupture de l'approvisionnement de l'énergie pendant seulement 3 mois, plus aucune de ces machines qui arpentent les champs, parce qu'il n'y a plus de paysans, plus de chevaux, plus rien du tout, ne pourrait fonctionner. Plus aucun des camions qui font 3 fois le tour de la Terre pour amener la nourriture dans l'assiette des consommateurs ne pourrait fonctionner. Ni ceux qui ramènent les déchets à l'autre bout de la Terre également. Donc voilà, c'est le chaos généralisé. Et je ne comprends pas que dans la plupart des lieux où l'on décide, où l'on anticipe, on n'ait pas pris à bras-le-corps ce problème. On voit apparaître les premières émeutes de la faim. Ça, ce sont les prémices et les signes annonciateurs de ce qui va se développer à peu près sur toute la planète. Et ça, c'est, je dirais, l'aspect le plus traumatisant de mon discours, de ce que je peux vous montrer. Mais il y a un truc marrant aussi. Là, c'est du gadget, hein. Ben, si, figurez-vous que les métaux précieux ou spéciaux qui font ces appareils sur lesquels on fonde notre expansion pour l'avenir, ils ont plus que 2 ou 3 ans, il n'y en a plus, les métaux qui servent à faire, qui rentrent dans nos ordinateurs, il n'y a plus les réserves suffisantes pour continuer. Donc ça, c'est pas grave, on peut se passer de machines à laver, on peut se passer d'informatique, d'aéronautique, d'automobile, mais on ne peut pas se passer de manger. Or là, c'est beaucoup plus grave, la disparition de l'eau douce, des terres arables, et puis des paysans, finalement, qui sont aussi une espèce en voie de disparition. Ce qui va aussi induire une modification, une transformation de la société, et on voit déjà apparaître, mais ça c'est plutôt bon signe, parce que ça va nous obliger à changer nos comportements, c'est que les conflits, les procès vont se multiplier à cause de la dégradation de l'environnement. Les gens vont de plus en plus souffrir, et même en Chine, bon, ça devient maintenant, il va y avoir maintenant des coalitions de consommateurs ou de citoyens qui vont se mettre en marche pour empêcher les gens qui jusqu'à maintenant ont pollué sans vergogne notre bien commun, finalement. Et puis les flux migratoires qui risquent de s'intensifier parce qu'on provoque des désordres tels dans certaines régions de la planète que, d'ailleurs, on le voit bien, que ça commence à s'accentuer et ça devient préoccupant. Et si le réchauffement climatique s'annonce avec la même rapidité, quelles que soient les controverses qui existent à ce sujet, je ne vais même pas rentrer dans ce débat où on dit les gens du GIEC qui trichent, c'est pas vrai, on n'en est pas là, etc. Moi, je vous fais simplement remarquer. Parce que ceux qui disent ça, c'est en pour suggérer que finalement, vous inquiétez pas, hein, continuez à consommer, à gaspiller comme avant. En fait, c'est pas grave. La Terre, l'univers a déjà connu ces choses-là, mais nous, on n'y est pour rien. Donc on peut continuer à se goinfrer de pétrole et tout ce qu'on veut. Eh bien non, c'est pas possible. Parce que le signe incontestable de la responsabilité de l'homme sur l'effet de serre, probablement, parce que c'est une répercussion d'un autre phénomène que vous pouvez constater, quand je vous dis que 30% des terres arables se sont dégradées, ont disparu en 30 ans, ça veut dire que le taux d'humus, c'est-à-dire le taux de carbone qui est dans le sol, s'est évaporé. La désertification, c'est la disparition du carbone, de la matière organique, de l'humus dans le sol. Et ça, c'est bien l'homme qui en est responsable par l'exploitation intensive qu'il a mis en place depuis, pour des raisons de spéculation, c'est même pas pour nourrir la planète, mais pour nourrir les êtres humains. Parce que vous savez que dans le même temps, on gaspille au moins 50% des produits que l'on produit. 50% de la production alimentaire mondiale est, va à la poubelle, sans même avoir passé par les assiettes. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai dans la plupart des pays développés. Si déjà on utilise de manière responsable tout ce potentiel, il n'y a plus les 800 millions de gens ou le milliard de personnes qui crèvent de faim. Ils sont nourris, de fait, par le gaspillage que nous produisons. Et ce gaspillage, si on pouvait le perpétuer, mais ce gaspillage ne va pas pouvoir continuer, puisque dans le même temps, ce gaspillage provoque la dégradation des ressources. Et donc, il n'est pas durable. L'agriculture dans laquelle nous sommes n'est pas durable. Donc, tout ce qu'ils ont dit, autrefois, je me souviens, quand on parlait, on avait des controverses, des gens qui contestaient, qui disaient, mais non, c'est le progrès, vous êtes les arriérés, etc. Ben, là, aujourd'hui, on est devant une situation que personne ne peut contester. Avec toutes les dégradations, c'est très bien qu'on ne va pas pouvoir continuer ainsi. Et puis, on est, et j'en parle d'autant mieux que cette année, nous sommes devant la 6e extinction depuis la préhistoire des espèces sur la planète. Et que cette année 2010 a été décrétée année internationale de la biodiversité par l'ONU, et que beaucoup d'initiatives vont se mettre en place pour essayer de sauver cette biodiversité. On perd, c'est presque surréaliste, en moyenne 100 espèces par jour. On a perdu 75% des variétés comestibles cultivées au début du 20e siècle, c'est-à-dire en 100 ans, on a éradiqué 75% des variétés comestibles dans notre environnement et dans notre alimentation. Quand on sait l'importance de la biodiversité pour la diversité alimentaire, pour l'équilibre nutritionnel, on se rend bien compte qu'on est là aussi dans une forme de folie collective qu'il faut arrêter le plus vite possible. Alors l'impact du réchauffement climatique, je ne vais pas vous en parler maintenant, d'ailleurs je ne voudrais pas dépasser mon temps de parole, mais aussi ça va avoir un impact sur nos modes de vie et sur nos organisations sociales. Et puis je veux dire très méchamment, les dérives de la science mercenaire du profit, hein, quand je fais référence aux OGM. Vous savez, j'ai une image pour illustrer l'histoire de la science mercenaire. Je ne dis pas que ça a été de manière machiavélique mis en œuvre dès le départ. On va rendre les populations otages de nos produits et on va éradiquer tous les produits naturels de la terre pour pouvoir les remplacer par nos productions manufacturées, nos productions industrielles brevetées qui donnent lieu à royalties, commerce, etc. Je vous fais simplement remarquer que l'agronomie moderne, en 30 ans, elle a expulsé, que presque de manière obsessionnelle, toutes les fonctions naturelles et gratuites des écosystèmes, naturelles et gratuites des écosystèmes, pour y substituer les artifices polluants de la chimie industrielle et de l'industrie lourde, et faire de nous des otages permanents de ce système. Aujourd'hui, il n'y a pas de recherche sur la microbiologie des sols. Il n'y a plus qu'un chercheur, et encore, il le fait à titre privé, Claude Bourguignon, puisqu'il y avait un seul laboratoire de microbiologie des sols à l'INRA. Quand on sait l'importance de ce moteur qui est sous nos pieds, hein, c'est vraiment un tapis vivant. Ce sont des myriades de bactéries, de champignons microscopiques, d'algues, qui synthétisent l'azote de l'air, qui font ce travail extraordinaire, gratuitement, et qu'on a fait disparaître en les brûlant par les produits chimiques qu'on a mis dedans, et surtout en ne faisant pas d'études dessus, comme on ne fait pas d'études épidémiologiques suffisantes, bien entendu, parce que ça mettrait trop en relief les conséquences de certains produits industriels, ça explique qu'aujourd'hui on en soit arrivé à cette dégradation de notre environnement et probablement de notre santé. Ça vient de plus en plus, puisque c'est la répercussion normale des erreurs que nous commet en amont. Et puis il y a autre chose entre nous qui est plus philosophique, c'est la destruction du lien social, l'absence de confiance de chacun pour soi. Est-ce qu'on, raisonnablement, on peut imaginer une société où chacun vit pour soi, sans se préoccuper de l'autre et des conséquences de ses actes ou de sa façon de vivre sur le voisinage, avec les répercussions d'ailleurs qui vont nous revenir comme un boomerang? Ça, c'est peut-être une forme d'égoïsme subtil que je suis en train de donner. C'est-à-dire qu'en fait, occupe-toi de ton prochain de façon à ce que tu n'aies pas à subir à ton tour les répercussions de tes mauvaises actions sur ton prochain. C'est presque biblique. Mais peut-être que je vais terminer là-dessus, puis on laissera ouvert à la discussion. Mais juste un mot d'espoir. Moi, je suis très confiant parce qu'en fait, toutes les horreurs que je viens de vous décrire, elles sont déjà perçues par une population de plus en plus nombreuse qui commence à mettre en œuvre, et ben mon Dieu, ordo ad chaos, hein, l'ordre naît du chaos. Donc c'est vrai que le chaos naît de l'ordre et vice-versa, c'est un cycle. Et alors, les organisations qui se font à l'heure actuelle sur le retour à la Terre, avec les milliers de signes qui clignotent, et ben ce sont ces innovations sociales et citoyennes comme les AMAP, protection des derniers paysans, et peut-être on va en mettre d'autres, les jardins de cocagne, les éco-villages, les énergies douces, la décroissance sélective, la sobriété heureuse, la simplicité volontaire, le commerce équitable, les banques éthiques, etc., etc. Et ça, c'est déjà en œuvre partout. Ça, c'est le bourdonnement humain qui doit être un champ d'espérance et de confiance. Voilà. Donc, c'est très bien. Il faut que parfois on soit bousculé un petit peu pour qu'on souffre un petit peu pour prendre des solutions courageuses et qu'on induise des comportements responsables. Voilà, c'est tout le bonheur que je nous souhaite. Et maintenant, je vous dis merci et je passe la parole.
Bon, est-ce que vous avez envie de sourire après ces trois partages? Alors, je vais vous inviter d'abord à sourire. Retrouvez votre sourire intérieur, et je crois que c'est le plus important parce que l'homme est à l'image du cosmos. Si le cosmos est encore là, nous serons là. Mais peut-être nous devons être là d'une autre manière, d'abord respirer avec notre sourire. Donc je vous invite à le faire trois fois. Que c'est beau vos sourires, rien que ça. J'ai envie de partager avec vous des clés en nutrition pour vivre la santé et le bonheur sur la Terre. Alors, évidemment, mes trois amis dans la vie sont très optimistes. Et pour pouvoir vous toucher, ils avaient envie des chiffres extérieurs qui sont affreusement affolants. Et bien, moi, je ne suis pas du tout affolée. Pourquoi? C'est que quand je suis arrivée en France, c'était pour étudier la médecine occidentale et pouvoir l'exporter dans mon pays, le Vietnam. Donc, je suis arrivée en réanimation cardiaque, médicale. Mon prof, M. Huguenard, a créé le SAMU, dont nous sommes la première génération à voir. Moi, j'étais dans l'une des premières chauffeurs pour conduire une petite voiture pour aller soigner quelqu'un qui venait de faire un accident vasculaire cérébral. Et comme la médecine occidentale très technique, je dis, mais traitement homéopathique, qu'est-ce qu'on peut faire avec un accident vasculaire cérébral? Voilà, comment j'étais avec mon arrogance après les années 75. Et donc, en faisant la réa, je trouvais que c'était injuste, après toutes ces années de médecine, d'être impuissant, de découvrir qu'on peut mourir à l'âge de 40 ans d'un infarctus. Je pleurais même quand j'ai perdu un patient de cancer du poumon à 40 ans. Je dis, ben alors, tu étudies médecine pour assister au départ des êtres. Voilà, à quoi ça sert, médecine occidentale. Voilà. En parallèle, pour faire mes études, j'ai travaillé à l'université, à l'unité de recherche INSERM 32, où on étudiait l'influence des graisses alimentaires sur les maladies cardiovasculaires. Donc, nous mettions des rats, pour répondre à Martine, dans des populations de rats. Donc, je travaillais des années 72 jusqu'à 76. Voilà les résultats. Il y avait des sœurs religieuses de quatre monastères, tout près de la région de Paris. J'avais des étudiants de santé, de médecine et des patients volontaires. Donc, nous les mettions 7 jours de beurre cru, 7 jours d'huile d'olive, Et cette source, c'est l'huile de tournesol canadien, parce qu'à l'époque, l'huile de tournesol n'existait pas en France. Donc c'était l'huile de cambra. Donc ma thèse, c'était l'influence des graisses alimentaires sur l'agrégation plaquettaire in vitro chez l'homme et chez le rat. Voilà ma thèse. Et donc vous voyez qu'on arrive 30 et quelques années après, que tu appelles 30 désastreuses, et on est toujours en train de brandir le même discours, on mange mal, on se nourrit trop. L'obésité, c'est un problème social. 30% de nos jeunes vivent l'ostracisme à l'école. Est-ce que dans la salle, vous pouvez me dire qui fait la cuisine à la maison? Qui cuisine son repas? Mais je suis dans une assemblée d'élus. Ben alors, j'ai plus rien à dire. On va donner la parole. Bon, bravo. Donc, j'allais vous dire, le changement commence d'abord en soi et chez soi. Vous pouvez pas brandir des discours, il faut changer, il faut changer. Donc, Jean nous apprend à cuisiner bio-végétarien. Donc, pour pouvoir parler, donc il va falloir convaincre nos élus, convaincre petit à petit. Donc, en nous, le changement. Donc, je vous propose notre assiette actuellement. À midi, qui mange à la maison? Bon. Et les autres trois quarts, qu'est-ce que vous faites? En général, qu'est-ce que vous mangez? Allez, mentez pas, on partage. Pardon? Frites préparées. Tout préparé. Voilà. Et réchauffé à quoi? Micro-ondes. Voilà. Là, vous avez, par cet exemple, mais je vous trouve courageux parce que 90% de, au moins en Paris, mangent comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On avale un sandwich. Le portable sur l'oreille, surtout qu'on entend de mauvaises nouvelles, l'estomac est broyé, et vous allez vivre la bonne santé. Et vous demandez qu'on vous donne la bonne santé. C'est pas possible. Alors je vous invite à vivre ensemble l'expérience. C'est tout à fait possible de manger bio-végétarien. Vous faites un exemple. Vous faites une fois par mois d'abord, une fois par semaine, petit à petit. Et manger bio, ça veut dire que vous commencez déjà à choisir qu'est-ce qui est possible pour votre porte-monnaie. Donc vous dites, voilà, au lieu qu'en Chine, on ait un repas de fête tous les 9 jours, vous allez refaire un repas de fête bio tous les 9 jours. Vous commencez comme ça, tout doucement. Parce que l'homme a besoin de la douceur et du temps pour changer. Vous ne pouvez pas dire comme ça du jour au lendemain. Moi, ça fait des années que je soigne mes patients. Et il y en a beaucoup qui viennent pour le régime à partir, malheureusement, d'un cancer. Et j'enseigne le Qigong en réadaptation cardiovasculaire. Donc, tout ce que je vous dis, je le vis vraiment tous les jours. Je n'ai pas envie de vous donner un exemple. Je crois que vous êtes mon exemple aussi. Si vous, vous pouvez changer, nos jeunes peuvent changer. Voilà ce que je crois. Et donc, l'assiette ne sera plus centrée sur un morceau de viande. Vous savez qu'en France, nous sommes 65 millions d'habitants et nous mangeons, d'après vous, combien de pourcents de la population est végétarienne? Hein? 2%, comme chez la population agricole. 2%. Or, du temps de Socrate, ce sont quand même vos ancêtres, les Socrates. 2500 avant Jésus-Christ, comme chez nous. Socrate disait déjà, on mange pour vivre, on ne vit pas pour manger. Et il disait aussi que si on mange carné, donc c'était cette histoire, vous pouvez le lire dedans, c'est un échange entre Socrate et Glaucon, à travers la parole de Platon, qui propose, dont Socrate propose de manger non carné. Et Glaucon, il dit, alors on va être comme des pourceaux, et on va pas être des êtres civilisés. Et alors, Socrate répond, si on continue à manger comme ça, on aura besoin de juges et de chirurgiens pour nous soigner. C'est-à-dire que ce que Philippe a dit, 2500 ans après, c'est ce qui se passe. On se dispute la terre, on a des maladies qu'on peut tout à fait changer, faire évoluer. Parce qu'en médecine chinoise, d'emblée, il n'y a pas de cancer. Il n'y a que des blocages d'énergie vitale. Et vous avez l'énergie vitale bloquée quand vous avez vos émotions bloquées. Donc vous voyez que l'alimentation, ce n'est pas basé seulement sur des chiffres que je souhaite qu'un jour vous viviez au moins tous les 9 jours, si je n'arrive pas à vous convaincre, parce qu'en France, de 2%, si vous gardez le modèle français, dans l'an 2050, on pourra nourrir maximum 4 milliards d'êtres sur plan équitable. Par contre, si nous mangeons végétarien, sans problème, sans guerre civile, nous pouvons nourrir 12 milliards d'habitants. C'est des chiffres de prospective dont vous le trouverez partout. D'accord ? Pardon ? Non, moi je rêve pas. Je parle de ce qui est possible. C'est-à-dire, là on est en 2010, je parle 2050, et quand j'avais fait mes études, tout ça, hein, dans les années 70, je rêvais qu'on puisse manger d'une autre manière pour qu'on ne puisse pas mourir de maladies cardiovasculaires, deuxième cause de mortalité en France. Les cancers, c'est une catégorie de maladies qu'on peut tout à fait supporter et transformer. Je vous assure. Pour avoir vécu, par exemple, tu as parlé du cancer du sein. Moi, je m'occupe des patients en médecine chinoise depuis les années 75, du cancer du sein. Et on a remarqué que ce sont les émotions bloquées et à un moment donné, avec notre façon de vivre dans le stress, vous savez que plus vous stressez, plus vous avez besoin de garder vos graisses. Donc en France, plus on mange gras, plus on a la possibilité, au contraire, c'est possible, plus on mange gras, plus ça se dépose et plus les artères se... Et donc arrive un moment donné, c'est pas par hasard que 40 ans fait un infarctus, où on se déclenche une maladie. En fait, on se déclenche pas une maladie. C'est que le corps, il appelle « help, au secours, je n'en peux plus de vos régimes ». Voilà ce que ça veut dire. D'accord ? Parce que, voilà, je crois que la majorité, vous mangez à peu près ça, c'est que si vous pouvez axer plus sur les protéines végétales, vous avez la moitié en légumes secs, vous les hydratez un, deux jours avant, et pour les légumes verts, si vous pouvez diversifier, je ne demande pas 8 à 10, vous verrez que vous commencez à manger bio, varié, largement, on a une quinzaine. Et vous verrez plus tard dans la diapositive en médecine chinoise, on mange suivant les saisons. Donc la suivante. Donc là, ça c'est des chiffres que vous connaissez, nous en tant que... Mais je voudrais attirer l'attention sur les fibres alimentaires. C'est ce qui manque beaucoup en France. C'est qu'on ne mange pas assez de légumes et de fruits. Et les fibres alimentaires, c'est le brossage de nos intestins. Parce que notre constitution, nous ne sommes pas des carnivores avec des griffes pour saisir les animaux. Nous avons les intestins 12 fois plus longs que notre taille. Donc les intestins longs, ça fait que la viande qui se dépose, c'est une putréfaction. Les carnivores, quand ils mangent, ils ont l'estomac 3 fois leur taille. Ils ont l'acide chlorhydrique 20 fois. Ça fait que la viande, sans problème, ils le transforment. Nous, il faut qu'on perde l'énergie à transformer. Et comme on n'a pas la capacité, on n'est plus des chasseurs. Nous sommes sédentaires dans nos bureaux, on ne bouge pas. Donc c'est très difficile de transformer les 40 à 60 grammes. Non, en France, on est à 36 à 45, le pourcentage de graisse animale. Donc ça se dépose. Et comme le cerveau n'est pas très lent, avec tout ce qu'on fait, ça se dépose largement. Non, ne soyez pas horrifiés. Je préfère vous souriez, parce que si vous m'écoutez avec ce regard-là, j'arrête de parler. Ne soyez pas horrifiés. tout est, on peut bouger. Bon, vous savez, les oligones, moi, j'ai pas besoin de... Voilà. Ah, en médecine chinoise, c'est très important de cuire ces aliments. Donc, la cuisson démarre d'ici, dans la bouche. Quand vous mettez, par exemple, d'abord les céréales, vous mettez dans la bouche seulement les céréales. C'est du sucre lent. Vous mâchez avec votre sourire 20 à 30 fois et vous aurez... Je fais rire. Et à midi, nous avons demandé à nos amis de manger dans la pleine conscience. Ça veut dire que, sous ces conseils, si vous avez votre assiette devant vous, nous allons vous mettre à table. Et sur cette assiette, je remercie le ciel, la terre et le travail dans la pleine conscience pour m'offrir ce repas. Je vis des produits de bonne qualité et je me nourris donc en hiver, pas une petite salade froide, ça bloque la digestion, 2 heures après vous êtes fatigué et vous allez grignoter 2 heures après parce qu'il y a l'index glycémique, vous êtes en rupture d'énergie. Et donc nous on a des couleurs, ça veut dire que sur une assiette vous avez l'énergie des reins, les couleurs noires. Donc, vous choisissez un peu de noir, comme les champignons chinois, comme les olives. Et l'énergie des reins vous permet d'avoir, si nous sommes un arbre, les racines de l'arbre. Après, vous avez le printemps avec le vert, donc vous avez des légumes verts. Après, comme je disais à Martine Attal, de l'énergie de la rate qui est du jaune doré, qui nous propose le tri, le discernement. On regarde qu'est-ce qu'on mange. Et puis vous avez le rouge, donc les radis, et puis il nous manque le blanc, le poumon, comme les champignons blancs, ou bien tout ce qui... Donc vous essayez d'avoir tout le cosmos dans votre assiette au moment où vous mangez. Et vous remerciez la vie de vous l'offrir. D'accord? Et surtout ça, parce que dès que vous avez mis quelque chose dans la bouche, l'estomac commence déjà à travailler. Et c'est très important, les enzymes. Donc, quand vous mangez des produits comme les céréales, c'est du sucre lent. C'est un programme de 90 degrés. Ne les mettez pas ensemble avec un peu de crudité, 30 degrés, et 60 degrés des légumes. Ça vous fait un broyage. Et 2 heures après, vous êtes en train de travailler avec l'ordinateur. Vous utilisez l'énergie du foie. Donc, c'est pour ça, souvent, avec un sandwich, un repas là va vite, cuisiner vraiment beau. Des fois, je vois comme à table un repas très beau, mais il y en a, on a mis combien d'heures pour cuisiner, Jean? Quand tu nous cuisines tes beaux repas dans les réunions, en 3 minutes, ils avalent ça. Comme ça, vous avez beau donner des conseils nutritionnels, vous ne pouvez pas vous nourrir. C'est aussi simple que ça, vous voyez? Donc moi je crois qu'aujourd'hui, notre partage, c'est en sortant d'ici, vous arrivez déjà à changer en vous, changer dans votre famille, ben, ce sera plus facile pour changer autour de vous. Voilà. Non? Ça va? On va donner la parole au public. Oui. Je l'ai déjà dit plus loin. Mais j'avais envie plus que ça soit un dialogue entre la salle et nous, parce que nous sommes, tout en étant actifs, engagés, je ne dirais pas militantistes, parce qu'au bout d'un moment, il y a les pouvoirs publics, le reste qui nous casse. Je crois qu'il faut agir lentement et sûrement. D'accord? Et donc, vous voyez que tout ça pour introduire aussi que dans les repas, il faut faire attention aux huiles végétales, qu'il ne faut pas les cuire. Donc, les oméga 3, sûrement pas. Et donc, ce que je me permets en tant que conseil de cuisine, quand vous chauffez une casserole ou une poêle, fermez le couvercle, vous lancez une bulle d'eau, si elle est sphérique, c'est assez chaud, vous mettez à saisir et vous mouillez, soit avec de l'eau, soit une orange pressée, soit un citron pressé, vous alimentez, et à la dernière minute, vous ajoutez la graisse crue. Donc, ça vous empêchera de vous offrir les 20-30 grammes de beurre si, dans vos goûts, vous ne pouvez pas le supprimer. C'est important pour la vitamine A. Et puis, pour surtout les huiles de colza, mais surtout l'huile de lin, qui est très important en oméga 3. Et on a beaucoup d'huiles qu'il faut vraiment diversifier, comme les légumes. C'est-à-dire que maintenant, allez dans un magasin bio, regardez votre porte-monnaie, qu'est-ce que vous pouvez vous offrir une fois par tous les neuf. Et puis, petit à petit, peut-être dans un an, quand on va se voir, vous allez me dire, ça va. J'ai pu convaincre ma famille de manger bio, végétarien. Mais si vous ne pouvez pas, de toute façon, essayez de baisser la quantité de graisse animale à 15-20% de vos rations. Ce sera pour votre santé. Je n'aurai pas besoin de vous réanimer. Voilà, merci.
Donc, s'il y a des questions, profitez de nos amis. Qui ont eu la gentillesse de venir. Oui, monsieur.
Je veux savoir, les bandages pour la certification bio, en fait, s'il est toléré ou banni les bandages de coûts de cette culture.
Alors, c'est complètement interdit. Je t'en passe. Voilà.
Je vous propose de chercher ce livre de notre ami Claude, et qui est l'un des premiers aussi de parler des 30 désastreuses par rapport aux 30. Vous avez tous les conseils, presque en résumé de tout ce qu'on a partagé ensemble, et ce serait bien de pouvoir découvrir. Comme ça, vous n'avez plus d'espoir au lieu d'être...
Ah oui, voilà.
Mais je crois que sa fille vient après-demain, non, c'est ce qu'il y a.
Moi, puisqu'on est au stade de la publicité, rassurez-vous, je n'ai pas de gain du tout là-dessus, mais j'ai eu la chance de diriger ce livre avec 25 grandes plumes, puisque vous avez dessus un panel aussi large que David Savant-Schreiber, Colin Serrault, Nicolas Hulot, Edgar Morin, Pierre Rabhi, Jean-Marie Pelt, Albert Jacquard, j'en passe et les meilleurs, et notre ami Jean Montagard, puisque c'est un peu le colloque des entretiens nuancés que nous avons fait sur ce thème médecine au pluriel et alimentation du futur. Et Martine Grimaldi, bien sûr, je t'ai oublié, Martine, qui a fait un remarquable exposé aussi dans ce livre. Voilà, j'en ai quelques-uns, j'ai pas pu en amener beaucoup par avion, mais en tout cas, je vous signale que j'en ai 5 ou 6 là, si ça vous intéresse. Et juste avant, Jean, de te redonner le micro, parce que c'est toi qui nous reçois ici, et merci pour avoir organisé cette rencontre, mettre l'accent sur aussi ce qu'a dit Anne tout à l'heure, en fait, elle nous a fait percevoir la dimension sacrée de l'alimentation. Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Est-ce qu'on a le droit d'évoquer ce qui nous rend un peu plus humains ou qui élève un peu l'humanité à la dimension sacrée de l'alimentation? S'il y a quelque chose de sacré sur la Terre, c'est bien l'alimentation et c'est bien la Terre. Et c'est simplement ces grandes vérités qui sont à la fois scientifiques, spirituel, culturel, social, économique, c'est que tout ce que nous mangeons, tout ce dont nous avons parlé, pour nous rendre respectueux à l'égard de ce que nous mangeons, parce que ça aussi, ça influe sur l'assimilation, et sur la qualité de l'assimilation, eh bien, qu'est-ce d'autre que le pain et le vin, sinon de l'énergie solaire condensée? Qu'est-ce d'autre que le pain et le vin? C'est Flammarion qui disait ça. C'était pas seulement Jésus-Christ dans le mystère de l'Eucharistie. Pour nous qui sommes d'origine chrétienne, pour la plupart, en tout cas, et c'est pas non plus pour faire une publicité, puisqu'ici on est tous mélangés. Il y a des mécréants, il y a des bouddhistes, il y a de tout. Mais simplement pour dire à quel point on doit accorder cette dimension du sacré, parce que tout ce qui vient de la terre, c'est en fait la production de l'univers, c'est le soleil. Et quand on sait qu'on renouvelle des milliards de cellules à chaque seconde et que nous les reconstituons avec tous les éléments du vivant, ça veut dire que nous mourons en permanence et que nous renaissons en permanence, enfantés en permanence par le cosmos. Et ça, j'aime beaucoup donner cette vision-là, parce qu'on ne se rend pas compte de ce mystère extraordinaire que nous portons en nous et que nous vivons en permanence. Voilà. Merci.
Alors, réponds, monsieur.
Je réponds, oui. Je répète sa question. Est-ce qu'on a le droit d'épandre des boues urbaines en agriculture biologique? Les boues urbaines sont proscrites en agriculture biologique. Les cahiers des charges les interdisent formellement. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire.
Rappeler aux jeunes qu'à Nice, autour de Nice, dans les 5 ans, il y avait des dizaines de fermes que j'étais cultivé de la mer jusqu'à Saint-Martin-du-Var, des deux côtés, et de Nice jusqu'à Antibes. Tout ça avec l'agriculture. Et là-dedans, il y avait des fermes avec des vaches laitières, absolument. Voilà. Et on avait fait à Nice pendant la guerre. Malgré tout ça. Non, non. Le jour, comme vous l'avez dit, qu'il se passe quelque chose,
c'était juste un témoignage. Je vais juste me présenter. Je suis producteur maraîcher bio, installé depuis 81 avec mon épouse sur Nice Côte d'Azur, sur les hauteurs de Nice. Et c'est tellement riche ce que vous dites. Alors d'abord, je vous remercie tous de la transversalité des propos. Parce que pour nous, c'est très, très, très important. Comme vous l'avez dit, M. Desbrosses, hein, que pour nous, dans la profession, Philippe Desbrosses, c'est un fondateur. Voilà. Nous sommes cette génération technique qui est arrivée dans les années 80, après. La transversalité, c'est important parce qu'on se sent très seul. Nous sommes effectivement les derniers dinosaures. La prochaine espèce à disparaître, monsieur l'a dit par rapport aux années 50, c'est nous. Et ça, si vous voulez, on le vit très mal. Je suis désolé, j'aime beaucoup sourire, mais là, chaque fois que je pense à ça, avec mes collègues, on est vraiment très mal. Il y a quand même une urgence, et le côté quand même positif de la chose, c'est qu'il y a des discours qui, surtout ces dernières années, je ne parle pas d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, quand on était producteur bio, dans le meilleur des cas, on était à du luberlu encore. Dans le pire des cas, on était quelqu'un de sectaire et de dangereux. Ça a changé. On a ce soutien. On a la notion de lien social est très importante pour nous. Et on la sent bien. Maintenant, il faut que les choses mûrissent un peu, mais j'ai envie de dire un peu vite. Si l'on prend les chiffres des Alpes-Maritimes, l'âge moyen d'un exploitant agricole restant aujourd'hui est de 58 ans. Les derniers chiffres qui sont tombés nous donnent 7 ans à vivre l'agriculture. Et dans 7 ans, les Alpes-Maritimes seront un pays sans paysans. Et c'est un cas un petit peu extrême lié évidemment à la géographie, à la topographie des Alpes-Maritimes. Mais sachez que c'est 15 ans pour les Bouches-du-Rhône, pas très loin pour le Var, et que la région PACA est en grand danger. On a dit qu'il fallait à peu près 30 000 exploitants agricoles et salariés pour nourrir cette région, ne serait-ce qu'en fruits et légumes. Or, comptez-en 10% sur la région. Et quand vous faites le rapprochement après avec les Alpes-Maritimes, nous avons à peu près 600 producteurs, dont la moitié ne produisent pas de l'aliment, mais de la fleur, de la plante en pot, et le reste à répartir entre les maraîchers et les éleveurs. Alors, là où je voulais en venir, c'est que, comme il y a cette urgence et que nous sentons ce lien social quand même se développer, nous comptons mettre notre dernière énergie, parce que ça aussi c'est important, l'énergie humaine. Il y a l'aliment, il y a la zénitude, il y a ce que vous l'appelez comme vous voulez, mais il y a aussi l'énergie humaine qu'on nous fait souvent gaspiller. Aujourd'hui, il faut aller à l'encontre du monde politique, qui annonce des choses, mais qui ne les respecte pas. Vous avez parlé souvent tous du Grenelle de l'environnement. Je vous fais remarquer une chose qui m'a frappé et qui a frappé tous mes collègues avec qui nous étions en réunion dimanche dernier à la montagne. Le clip sur le Grenelle. Quand vous regardez ce clip « Osons le monde de demain », il sort tout de terre, sauf un paysan. Sauf un paysan. Vous avez les tramways, vous avez l'énergie solaire, vous avez le recyclage des déchets. Si on regarde bien, on vivra d'isolants et de produits recyclés. Non, je suis désolé. On mange d'abord, vous l'avez dit, et nous sommes en plus des gens gâtés, encore gâtés. Je veux dire, on mange aussi nous sur la misère humaine. Et j'ai envie de vous dire qu'elle soit non bio ou bio, dans certains cas. Donc ça, c'est pas possible. Alors on nous demande beaucoup de choses qu'on ne pourra plus tenir les cantines bio, les supermarchés, j'en parle même pas. Ce n'est pas notre objectif principal, mais ça demeure un lieu d'achat, il faut reconnaître les choses. Les amas, les marchés locaux, on ne peut pas servir tout ce monde-là. Ce n'est pas possible, c'est déjà impossible. Nous aimerions installer des jeunes. Alors, il se trouve que dans les Alpes-Maritimes, nous étions 80 producteurs bio, on stagnait jusqu'à l'année dernière. Et en un an et demi, nous sommes passés à 102, ce qui représente à peu près un quart, maintenant 25% des producteurs installés dans les Alpes-Maritimes. Si c'est une satisfaction, il faut la relativiser, parce que ça représente quand même trop peu de gens par rapport à tout ce qui nous est demandé encore une fois. Alors, la dernière chose que je voulais dire, parce que le temps nous est compté en termes professionnels et nous avons beaucoup de lassitude, il faut quand même le dire aussi, c'est qu'il nous est offert une opportunité. Le ministre, M. Barnier, avant de partir, suite au Grenelle de l'environnement, avec les côtés positifs du Grenelle de l'environnement, a lancé un plan de réflexion qui s'appelle Horizon Terre 2020 et qui implique tous les professionnels et toutes les structures qu'on a bien voulu nous pouvoir associer, qu'on nous a laissé associer, dans une réflexion dans chaque département. Les assises publiques, je l'espère, on nous a dit assises, pour moi c'est public, auront lieu en juin. Nous participons à des comités de pilotage avec des groupes de travaux précis sur des thématiques très précises. Et je voudrais quand même insister, et Nice Côte d'Azur, la communauté urbaine n'échappe pas à cet ordre-là, à ce schéma-là, les groupes que nous mettons en place dérangent. Ici, le sol, ça a d'autres vocations que d'alimenter les gens. Nous nous battons, j'ai envie de dire, mètre par mètre, pour pouvoir rester. Et ça, il y a une hypocrisie, si vous voulez, entre le discours et la volonté politique qui fait qu'il y a un fossé énorme entre le discours et la réalité qui nous est appliquée, qui nous permet de vivre, qui nous permet d'installer des jeunes. Ça, je crois qu'il faut le dire au public, enfin, il faut le dire à la majorité des gens, c'est vraiment le moment de le dire et nous avons, nous, besoin de soutien pour le faire. Alors, vous avez parlé de lien social, hein. Je vois qu'on a des fervents défenseurs des liens sociaux. On aurait pu parler de Terre de Liens, qui est une exemplarité. Terre de Liens, si vous voulez, c'est une association qui permet à des citoyens de s'investir dans l'installation, je vais très court, hein, dans l'installation des jeunes. Au demeurant, cette installation, elle se trouve toujours confrontée à des problématiques de foncier, à des problématiques de moyens, malgré tout, et de loi. Et quand vous pensez que vous avez dans ce département-là le rapporteur sénatorial du Grenelle 2 de l'environnement qui dit, dixit, l'agriculture c'est l'épine dans mon pied sur sa commune, je vous laisse penser la difficulté que nous avons à discuter les zonages, à discuter la faisabilité de cette présence de producteurs bio ou pas bio. Essentiellement bio, puisque les jeunes qui s'installent maintenant, hein, je crois qu'il y a un jeune candidat, là, je l'ai rencontré il n'y a pas longtemps, qui est dans la salle, et moi, nous faisons le maximum que nous pouvons pour les aider. Mais sans vous, on n'arrivera à plus rien du tout. Donc voilà, alors on compte faire une opération citoyenne d'ici les assises, pour faire un peu pression. Si vous avez des idées, si vous avez des souhaits de participer, c'est volontiers, je vous laisserai des coordonnées. Voilà. Excusez-moi, j'ai profité de faire un peu... Ouais, mais je crois qu'on est dans le... Et merci à Jean aussi pour tout le travail qu'il fait au niveau de l'alimentation, parce que sans ça, on n'incite pas les gens.
Jean, c'est un de nos nouveaux apôtres, c'est un apôtre des temps modernes. Et simplement pour répondre à la question, bien entendu, on est conscient qu'on n'échappera pas à une réforme de la politique foncière, parce qu'on est toujours dans la spéculation. Et demain, on aura, comme au Brésil, les latifondistes avec des milliers d'hectares et des 8 millions de petits paysans sans terre. On est grosso modo en France avec 15 000 candidats à l'installation en bio qui ne trouvent pas de terre. C'est pas qu'il n'y a pas de terre, c'est que le système ou la politique foncière fait que les propriétaires préservent, et je trouve que c'est un peu normal aussi, si on ne leur donne pas de compensation en retour, ils ne veulent pas de bail sur les terres, parce que d'un seul coup, ils perdent, et leur retraite, souvent, le petit paysan qui a ses terres, c'est sa retraite, parce que la retraite, elle est tellement ridicule, que s'il spécule pas sur ses terres, il a rien du tout, quoi. Donc voilà, c'était vraiment un travail de collectif que nous devons, une réflexion collective. Nous, on l'a déjà amorcé avec le centre pilote. On a identifié les freins au développement du bio. Les freins au développement du bio, c'est d'abord les masses d'argent qui sont mises en pure perte dans un secteur qui est en faillite maintenue en permanence, puisque je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais la difficulté de maintenir et de développer le bio, c'est d'abord de redonner aux paysans son statut, c'est-à-dire qu'en fait, valoriser l'état du paysan, parce que on a vu que les freins principaux pour passer au bio ou même pour consommer bio, ce n'est qu'une un sondage, une étude, une enquête de Biocop. Vous ne le devineriez pas, le principal frein, c'est qu'en dira le voisinage. Et quand que dira-t-on si je me mange bio ou si je me mets... C'est incroyable la pression du voisinage, la peur, parce que ce n'est pas la pression, c'est la peur de la pression, mais aussi, alors plus prosaïquement, le fait qu'on ne puisse pas accéder au foncier, et surtout les échecs qui ne devraient pas exister. Ben, nous formons des jeunes, on a au centre pilote à peu près 70 stagiaires longue durée par an qui vont s'installer dans différents secteurs. Souvent, ils ont des terres, ils ont fait un petit héritage, ils ont des terres, ils changent de vie. Bon, pour cela, le problème est réglé. Il n'est pas tout à fait, dans la mesure où la formation ne suffit pas, et parce que d'abord, ce sont tous des néo-ruraux, donc ils n'ont pas la fibre paysanne, ils ont plein de bonne volonté, et c'est eux qui vont de toute manière... permettre de ce renversement, parce qu'on ne peut plus attendre des fils d'agriculteurs, il n'y en a plus de toute façon, puis ils sont tellement découragés, ceux-là, que ce n'est même pas la peine de compter sur eux. Mais ce qu'il faut, c'est que, non seulement la formation, il faut qu'il y ait le parrainage, il faut que ces gens-là soient suivis par un réseau, aidés, lorsqu'ils ont des états d'âme, lorsqu'ils ont des difficultés, qui ne se sentent pas abandonnés à leur sort. Il faut qu'il y ait tout autour ce système du parrainage. Et moi, je le fais, c'est mon ambition. Je crée une fondation qui va s'appeler Intelligence Verte, l'association va passer en fondation, et je mets le patrimoine familial dans la fondation pour trouver les moyens de soutenir un réseau d'universités paysannes, hein, de garder ses savoir-faire, de garder ses diversités génétiques, mais en même temps cette diversité culturelle, de sauver ça, parce que demain c'est ce dont on va avoir besoin. C'est pas des grosses machines, ni des engrais, demain on a besoin des savoir-faire, simple, accessible à tous, économe, durable, etc. Pardon, oui. Ben, les stages sur la ferme de Sainte-Marthe, nous, on a quand même la chance d'être soutenus par le Conseil régional Région Centre depuis 15 ans. Et on est l'un des seuls centres de formation avec une liste d'attente. Hein, les centres de formation pour adultes, il n'y en a pas beaucoup. Avec une liste d'attente, surtout pour les métiers de la terre. Et d'avoir vu maintenir notre budget depuis 15 ans, alors qu'ils ont dégradé tous les budgets de la plupart des... Mais ils ont considéré, et d'abord parce qu'il y a eu le succès de cette formation. Et donc, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site www.intelligenceverte.org et vous saurez si les stages sont pris en charge. Les stages sont financés par le conseil régional, donc c'est plus facile d'accès pour un certain nombre de personnes qui sont dans des difficultés économiques. Donc voilà, mais on continue, nous, la ferme de Sainte-Marthe, à former, et de plus en plus, il y a des demandes maintenant, à la fois en stage court et en stage long, très importantes. Et il y a peu de gens pour former, hein. Il y a très peu de centres comme ça.
Oui. Excuse-moi, je passe la parole. Je voulais faire juste une intervention qui me présente. Je suis Alejandro Charro, je suis un étudiant en BTS, hôtellerie et restauration. Je suis hôtelier au monsieur Montagnard. Je regrette de n'avoir pas pu faire sa connaissance. On est aujourd'hui ici, nous sommes deux, sur un quota d'à peu près un effectif de 1000 élèves au lycée hôtelier. Et quelque chose que je voudrais faire une petite observation, c'est le fait que sur ces 1000 élèves, et même sur ce qu'on appelle nous jeunes, voire un cadre d'âge entre 16 ans, voire 35 ans, je ne sais pas, je laisse personne, nous sommes deux aujourd'hui sur une salle qui n'est pas pleine, et je trouve ça de pas dommage, encore plus, voire très alarmant, très triste. Et je suis ici dans deux objectifs. Nous, on est passionnés de cuisine, donc nous sommes ici pour voir évidemment toute l'évolution de la cuisine, les nouvelles techniques, tout ce que vous voulez. En même temps, nous voulons participer à ce type de conférence et nous serons là mardi avec ma classe même de BTS. Dont quelques-uns seront venus obligés, malheureusement, parce que notre prof nous l'impose, chose qui ne devrait pas être ainsi, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, dimanche, on s'est permis de venir et au long de ces heures, on est arrivé à une réflexion assez intéressante qui, en fait, est à plusieurs niveaux. D'un côté, nous, disons, avons la chance de pouvoir avoir, disons, des consommations du côté des produits bio. Peut-être, je ne sais pas si c'est de votre exploitation, on va à la route de Belay. Voilà, exactement. Et nous allons tous les lundis, nous allons prendre nos légumes bio qui nous coûtent 22 euros le panier avec 14 légumes qui sont excellents, géniaux, c'est quelque chose d'exceptionnel que nous faisons depuis qu'on est arrivé ici en septembre. Et pour nous, c'est un grand bonheur. Et la chose qui est assez impressionnante, comme vous disiez peut-être Madame Grimaldi, qui avait peut-être des transformations sur les comportements humains, sur la masculinité de quelques animaux ou autres, il y a quelque chose de très marquant, c'est que nous arrivons au lycée hôtelier, nous-mêmes nous nourrissons, nous faisons manger tous les jours, matin, midi et soir, nous amenons à manger et nous rechauffons au lycée malheureusement au micro-ondes parce qu'on n'a pas un autre moyen. Et sur cette population de jeunes, nous avons à peu près 25 jeunes qui mangeront ainsi, qui nous préparons à manger et nous mangeons à midi ensemble, dont deux, un collègue à moi et moi-même sommes garçons, le reste sont que des filles. Et notre consommation bio, le fait de vouloir manger bio, eh ben, c'est vu pas très clair, genre... tu es vraiment quelqu'un de très viril pour manger bio? Est-ce que ta consommation est certes intelligente? Et c'est quelque chose d'affolant qu'au sein d'un lycée hôtelier, on ne puisse pas voir une consommation bio comme normale. Je vous cite un exemple très simple. Un élève qui ouvre un poivron bio et un élève qui ouvre un poivron qui vient de grande surface de nos fournisseurs au lycée hôtelier est étonné de ce qu'il trouve à l'intérieur. Pourquoi? Dans le poivron qui vient de la grande surface, il n'y a rien. Et dans l'autre, il n'y a pas d'espace. Tout est rempli. Alors, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est vraiment pas bon? On se pose vraiment la question. Et c'est quelque chose de tellement simple, et c'est quelque chose de tellement flagrant, mais on a aucune réflexion à ce sujet. Nous deux, on est passionnés de cuisine, on vit là-dedans matin, midi et soir, on rêve de ça. Et on arrive à essayer de faire passer des messages qui sont pris pour pas grand chose. Et si c'est possible, je ne sais pas si malheureusement il n'y a pas d'élu ici qui pourrait peut-être faire une démarche en tant que tel. Bon, moi-même je ne suis pas citoyen français, mais bon, je propose quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose qui est très flagrant dans la population jeune étudiante, universitaire ou lycée hôtelier ou autre, c'est le coût pour se nourrir tous les jours pour les jeunes. Nous, on est à peu près en capacité de pouvoir créer un menu assez, disons, sobre pour la journée. Mais on a les moyens de le faire, disons, techniquement. Mais niveau budget, des fois, c'est un peu complexe par rapport à la nourriture bio. On a fait l'analyse, c'est pas plus cher. Niveau légumes, c'est pas plus cher. On a fait le calcul niveau légumes pour aller en grande surface à Carrefour et acheter la même chose qu'on achète chez Pierre et Anne. Et c'est exactement pareil, évidemment qualité-prix, on ne fait pas le rapport. Et la réflexion de chaque jeune, c'est trop cher, on ne sait pas faire, on ne sait pas où aller, c'est trop compliqué. Alors, est-ce que ce serait possible de faire une démarche par rapport à ces jeunes? Est-ce qu'on peut essayer de les éclairer, qu'ils arrêtent d'être dans cette ignorance, disons, assez étonnante? Pourquoi on peut pas se pourvoir de produits bio? Est-ce que c'est loin? C'est pas loin, hein, c'est à 8 minutes, j'y vais en vélo. C'est à 8 minutes de chez moi. C'est impressionnant. Et au niveau du prix, bon, certes, on peut recevoir des bourses pour l'enseignement supérieur. Pourquoi ne pas avoir un quota de ces bourses pour l'alimentation? Pour l'alimentation dans le secteur bio. Il est où le problème? Il ne faut pas que le bio soit au niveau de Nestlé pour rentrer dans la formation. On veut aujourd'hui enlever l'histoire, le terminal S. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel d'enlever l'histoire et de ne pas apprendre à manger aux gens? C'est ça un questionnement qui est pour moi clé. On est en école hôtelière et personne ne nous fait un cadre, une image de comment manger comme ci, pourquoi manger comme ça. C'est très simple. Vous êtes sûr de faire. Et malheureusement, il y a un coup.
Je voudrais répondre.
Merci beaucoup de ne pas t'avoir vu. Mais... je voudrais simplement dire un petit mot. Effectivement, il y a peu de monde, c'est bien regrettable. Et pourtant, l'épouse de notre président de l'association des anciens élèves a fait beaucoup, beaucoup de travail depuis un mois pour envoyer partout des informations, des mails, etc. Rosanna, merci beaucoup pour le travail.
Merci. Je voudrais juste répondre en aparté pour le micro-ondes. Vous achetez un cuiseur vapeur, ça coûte 20 à 25 euros. Il suffit de mettre un peu d'eau et en 3-4 minutes, c'est chaud.
Exactement.
Et c'est aussi parce que quand vous mangez des produits micro-ondes, vous avez beau acheter du beau bio, vous cuisez tout et vous mangez des aliments morts. Il faut absolument arrêter le micro-ondes. Et ça, les études, j'en ai pas montré, mais en tout cas, c'est sûr. D'accord ? Et vous remarquerez, vous comparez aussi, c'est à titre expérimental. Vous mangez un repas cuit à la vapeur, réchauffé à la vapeur, et un repas bio, vous verrez, les deux heures qui suivent le repas, vous êtes un peu fatigué avec le réchauffement. Donc, il faut l'expérimenter tout de suite, et puis cotiser pour vous acheter. D'accord ? Voilà.
Vous pouvez cuire les poissons, les riz et les légumes.
C'est ça, c'est ça.
C'est tout chaud et c'est. Il est merveilleux.
Oui, il faut faire que les
choses. Voilà. Et ça maintient chaud, c'est tout chaud, c'est bon. Il n'y a pas besoin des micro-ondes, il n'y a pas besoin de rien. Moi, tous les jours, je mange ça et j'ai maigri de 10 kilos. Et maintenant, je vais maintenir toujours au même poids. 60 à 14 kilos. C'est vrai, je fais comme ça. Les poissons à la vapeur, les légumes à la vapeur. Juste une goutte d'huile d'olive, voilà. Et stop. Et c'est terminé.
Oui, alors vous avez un peu
plus de monsieur derrière.
Voilà, monsieur, d'être bien, toujours en forme, toujours.
Et oui, le problème, c'est là.
Les problèmes,
le problème, c'est ces deux politiques qui sont.
Voilà, il faut savoir,
ils ne le font pas. Oui, voilà.
Alors, monsieur derrière veut poser une question.
Vas-y, on va revenir à
merci, je prends un petit peu la parole, mais j'abonde tout à fait dans ce que vous venez de dire. J'essaie de le vivre dans ma vie quotidienne. J'ai pris conscience un petit peu en 1961, donc je fais partie de votre génération, de ce problème de l'agroalimentaire. Bon, donc j'ai essayé de traverser les différentes générations comme j'ai pu. Je n'ai pas toujours pu manger bio, mais ça a été toujours mon vecteur. Donc je comprends tout à fait votre inquiétude et je l'ai partagée longtemps. Et depuis quelques années, depuis 4-5 ans, avec un petit groupe, notamment mon ami, on anime une AMAP, on est référent de l'AMAP. Et je crois que c'est une des structures, vous les avez citées, qui va peut-être nous permettre, c'est pas la seule, les éco-villages et d'autres peuvent vous apporter, mais grâce à cette structure, depuis 4-5 ans, on a réussi, je crois, à faire prendre conscience à un certain nombre de personnes, des jeunes et des moins jeunes, de la possibilité de manger bio, de manger sain. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une AMAP ? C'est simplement le partenariat entre un maraîcher qui est en bio ou qui est en devenir de bio avec un groupe de consomme-acteurs qui ont choisi de manger différemment et de manger sain et bio. Il y a des contrats qui sont établis. Et puis, les gens s'engagent pour 6 mois, c'est-à-dire qu'ils achètent à l'avance la production du maraîcher. Alors, quels sont les intérêts ? C'est qu'il y a un climat de confiance qui s'établit parce qu'il y a une connaissance du maraîcher direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il y a une livraison une fois par semaine de ses fruits et légumes. Et ensuite, lui, le maraîcher, justement, il a l'avantage d'avoir une avance de trésorerie. Ce qui lui permet de ne plus perdre son temps à des marchés, des supermarchés ou d'autres services, etc., il se consacre beaucoup mieux à son métier. Et en plus, et on vient de le voir dans des conférences récentes, on était il y a 3 jours, je crois, 3 ou 4 jours à la chambre au Créat, ici sur la plaine du Var, une journée organisée par la Chambre de l'agriculture, en liaison avec Alliance Provence, qui est un petit peu l'organisme, l'association qui chapeaute toutes les AMAP de la région PACA, il y a déjà 150, Il y a 18 AMAP dans les Alpes-Maritimes et il y en a 4 et peut-être 5 ou 6 puisqu'il y a 2 créations d'AMAP à Nice. Donc 4 à Nice, etc. Voilà, c'est un mouvement qui a démarré en 2001 dans le Var et qui s'étend progressivement dans toute la France. Alors, il rejoint bien sûr, c'est pas une nouveauté, il rejoint les KK au Japon, il rejoint les CSA aux États-Unis. Bon, voilà, ça c'est du traditionnel, mais ce qui est important, et je pense que c'est une des réponses à votre inquiétude, c'est que c'est des structures qui fonctionnent, qui apportent une certaine idée de l'alimentation et du soutien, c'est ça qui est important, du soutien à un paysan qui produit bio, local et de saison. Voilà. Et ça, ce sont les trois fondamentaux. Donc je voulais justement intervenir là-dessus pour dire et vous rejoindre quelque part et vous remercier bien sûr des 4 exposés qui ont été remarquables, si ça vous redonne espoir. Il y a espoir, il y a une prise de conscience dans la population actuellement, ça bouge. Il y a des gens qui viennent nous voir spontanément, on ne fait aucune publicité. Toutes les AMAP des Alpes-Maritimes, et je sais qu'à Marseille c'est pareil, il y a des listes d'attente de 50 à 60 familles. Et donc nous sommes en train de faire une action, je crois que Henri de Repas ne me contredira pas, de faire une action auprès de nos élus locaux pour leur faire prendre conscience de l'importance et de la gravité du mouvement qui est en train de se faire. Et donc apporter des solutions, c'est-à-dire trouver des terres fertiles pour ces jeunes qui ont envie d'aller vers la, cette...
Où est votre exploitation?
Moi, je ne suis pas maraîcher. Oui, hein, moi, je suis simplement un référent à AMAP. L'exploitation, c'est celle de Stéphane Bonifaci sur la route de Bélé.
D'accord.
Donc,
la mairie de Nice aide justement pour ça, parce qu'une fois par semaine, deux fois par semaine, il y a justement des maraîchers pour ça qui livrent la marchandise. Vous demandez qu'est-ce que vous avez besoin et vous livrez, vous payez.
Voilà, on est en relation là depuis quelques mois avec des élus de la ville de Nice pour justement qu'il y ait une prise de conscience, parce que tout ceci ne peut pas se faire s'il n'y a pas la prise de conscience des politiques. Et nous, ce qu'on essaie de toucher, c'est les politiques locaux.
Henri, tu as quelque chose à dire.
Juste un mot, et c'est méchant vis-à-vis des politiques, mais franchement, c'est pas qu'ils n'aient pas pris conscience. C'est que le lobbying qui est fait autour d'eux, et je dirais le concubinage qu'on a entre la politique et certains grands intérêts de grands groupes, font que, ou ils font semblant de ne pas comprendre, ou ils ne veulent pas trop en discuter, parce que c'est tellement difficile pour eux, cette situation, que de toute façon, le changement ne viendra pas d'eux. Dites-vous bien ça, hein. Il viendra de nous, de notre organisation. C'est que demain, quand ils verront ce tissu qui s'est créé spontanément, ils viendront légiférer dessus. Mais n'attendez pas qu'ils viennent. Ça fait 30 ans que je suis dans le circuit, dans les coulisses du pouvoir, pour vous dire à quel point j'ai vu et j'ai cru innocemment et naïvement à chaque fois des belles déclarations, pour finalement me rendre compte qu'elles étaient faites pour enfumer le citoyen.
Je voulais juste en reprendre, parce que ce qui est bien, c'est l'échange, et de rebondir à chaque fois sur du concret. Vous voyez par exemple l'exemple de ces jeunes gens qui vont chez Anne et Pierre Magnani. Alors on parle d'installer, moi je parle souvent ne serait-ce que de maintenir. Dans le cas de Pierre et Anne, que je connais très bien, qui sont des amis, eh ben Pierre en ce moment, il est en train d'être nomadisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur les terrains qui lui permettent de produire pour vous, l'ensemble des personnes qui sont en lien, qui sont en contrat, hein, c'est un contrat social, il a une incertitude sur la pérennité d'une partie de ses sols. Il me dit dernièrement, tu sais Henri, il faudrait peut-être que je cherche 1000 mètres situés plus loin dans l'arrière-pays pour que je puisse y faire les poireaux et les patates que je ne vais plus pouvoir faire. La nomadisation, nous on est contre. Je veux dire, alors quand je dis nous, c'est parce que je suis aussi porte-parole de la Confédération paysanne des Alpes-Maritimes et que, à titre de syndiqué, je dis nous, hein, d'accord ? Je suis porte-parole local. La deuxième chose par rapport au monde politique, et ça, cela nous semble quelque chose d'incontournable. La différence entre un paysan qui est là pour durer. C'est sa vie. Moi, ça fait 30 ans que je fais cette vie. Il y avait mon beau-père avant, etc. Je veux dire, on est là pour durer. Mettez-la en parallèle avec un mandat politique qui, à part pour les professionnels de la politique, est un mandat éphémère. Donc ça veut dire, après moi le déluge, et ça je suis d'accord avec vous, ça fait 30 ans que je les pratique, alors attention, je ne généralise pas, hein. Il y a des très bonnes intentions suivies des faits, et quelquefois, ces intentions, on les retrouve effectives dans des petites communes, avec des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Mais par contre, ils vous connaissent. Vous êtes vraiment déjà en lien avec eux. Et j'expliquais l'autre soir lors d'une réunion, c'est le cas de la mairie de Saint-Léger dans l'arrière-pays, qui, avec ses 64 habitants, a permis de conforter un berger et de vouloir maintenant installer un couple pour faire du maraîchage en proposant les terres, l'habitat et l'atelier. Et ils n'ont pas beaucoup de moyens. Alors que les grandes communautés qui ont des moyens en parlent beaucoup, veulent que leur cantine soit bio. Écoutez, je vais vous dire, nous on vit une situation un peu difficile sur notre ferme parce qu'on a 7 hectares sur un plateau face vue imprenable à la montagne, 14 km du centre de Nice. On sent qu'on veut nous déloger. C'est très clair, ça devient très très clair. Et j'ai posé la question à monsieur le maire, que j'ai vu plusieurs fois, à monsieur le ministre et monsieur le maire Christian Estrosi, quand il a pris ma demande. Il m'a répondu par écrit, oui monsieur, nous sommes d'accord pour que vous livriez nos cantines scolaires en bio. Et qu'est-ce que vous voulez que je livre des cantines scolaires si je ne peux pas rester? C'est pas la question que j'ai posée. Donc on entend ce qu'on veut entendre quand on est en politique. Et on dit ce que peut-être aussi les autres veulent entendre. Mais par contre, par rapport au concret, il y a peu de choses qui se font. Je suis désolé, c'est pas une attaque personnelle. Je me mets aussi à la place de l'élu. Comme je me mets quelquefois à la place du président de la Chambre d'agriculture qui me dit, tu vois, vous, syndicat Confédération Paysanne, vous réclamez des terres infertiles, moi, la plupart des anciens de la vallée du Var, ils veulent vendre pour faire du logement. Comme vous l'avez dit, avec 500 euros de retraite par mois, c'est le cas de ma belle-mère, et 4000 euros d'impôts fonciers bâtis et non bâtis pour la propriété, je ne sais pas comment vous pouvez vivre. Alors si on ne prend pas en compte toutes ces imbrications, toutes ces contraintes sociales, si on ne revalorise pas le statut, vous disiez tout à l'heure, les jeunes, ils vous regardent comme des bêtes étranges. Mais moi, je vais vous dire, essayez d'être jeune agriculteur et vous allez voir comment vous êtes vu. Vous venez d'une autre planète. C'est comme ça. Donc, cette notion aussi de compréhension sociale, c'est important. Et vous avez raison, tout le monde l'a dit, il faut du temps pour la travailler. Malheureusement, pour le maintien des terres fertiles, on n'en a plus beaucoup. Voilà, excusez-moi.
Ça chemine vers. Est-ce qu'il y a des questions des personnes qui voudraient poser des questions? Ben, écoutez, merci beaucoup.
Bon, Georges, oui. Peut-être dernier un mot, oui.
Oui, bonjour, je me présente, je suis Christian Felter, donc ingénieur agronome, et j'animerai la réunion, donc le colloque donc de mardi concernant le bio et la restauration collective. En fait, je m'intéresse au bio, moi, depuis les années 97, date à laquelle j'ai rencontré la fondation Kousmine, dont j'ai été consultant jusqu'en 2001. Doctoresse Kousmine étant la première médecin nutrithérapeute et qui a mis en évidence les liens entre les huiles de première pression à froid, qui a traité les scléroses en plaques d'origine alimentaire par des complémentations d'huile de lin, et essentiellement ça, pour faire court. Et aujourd'hui, nous sommes effectivement dans des rapports oméga 6 sur oméga 3 de l'ordre de 40, alors que nos grands-parents étaient sur un rapport de 3. Et en fait, on doit revenir sur des rapports beaucoup plus faibles. Le problème qu'on voit aujourd'hui, je voudrais insister sur ce fait-là, c'est que le déséquilibre de ces rapports, disons, d'oméga 6 sur oméga 3, oméga 6 qui sont oxydés en oméga 3, non. Enfin, les bons acides, hein, les bonnes doubles liaisons. Eh bien, effectivement, la recherche de Nestlé, la recherche de Danone ont pris en compte ces aberrations. Et produisent des aliments qui vont vous garantir que les rapports oméga 6 sur oméga 3 sont inférieurs à 6 ou inférieurs à 9, je ne sais pas quelle est la norme aujourd'hui. Pour dire que, en fait, pour qu'un mouvement réussisse, il ne faut pas qu'il se disperse et il faut qu'il ait une R&D active. Je crois que le problème de l'agriculture bio, notamment en France, c'est de n'avoir pas su produire suffisamment d'encadrement de qualité, notamment d'ingénieurs agronomes motivés et qui restent dans les mouvements. Je vois par exemple l'engouement actuel vers le bio est en train de se disperser vers slow food, vers tout un tas de mouvements parallèles et connexes, ce qui fait que des personnes produisent du discours, produisent donc des différentes autour de notions essentielles comme celle par exemple de respecter et restructurer les sols, sol étant compris comme un support d'un complexe argilo-humique qui va permettre à une plante de vivre en harmonie avec ce complexe argilo-humique. Donc ça, c'est des notions agronomiques de base qui ne sont même peut-être plus enseignées puisqu'il n'y a plus de sol. À partir d'un certain rendement, il n'y a plus besoin de sol. On est en culture hors sol, sur du sol, enfin sur ce qu'on appelle un sol, ce qu'on appelle une rente foncière. Et effectivement, je crois que l'agriculture biologique a perdu la partie quand elle n'a pas su imposer un discours alternatif à l'agriculture raisonnée. À ce moment-là, il y avait très très peu de chances pour que l'agriculture, tous les arguments que vous avez développés étaient déjà présents. Mais il n'y avait pas suffisamment d'écrits, suffisamment de preuves écrites, de preuves publiées, je crois beaucoup la vertu de la publication, pour faire gagner la partie à l'agriculture biologique. C'est l'agriculture raisonnée qui a gagné, c'est-à-dire l'agrochimie.
Elle n'a pas gagné.
On va voir. En tout cas, l'agrochimie n'a pas perdu. Et l'agrochimie n'a pas perdu. Et à partir du moment où, dans un modèle, on reste sur un modèle agro-industriel, c'est-à-dire sur un modèle défini par l'agrochimie, vous avez forcément, et ça a été démontré au plan économique par le professeur Louis Malassi, vous avez forcément un transfert de valeur donc de l'agriculture vers l'agrochimie. Et actuellement, nous sommes toujours dans un modèle d'agro-industrie, c'est-à-dire dans un modèle qui transfère de la valeur vers l'agrochimie, et tous les chiffres que vous avez indiqués l'attestent. Alors, deux réflexions pour conclure cette intervention. Celle de la nécessité de conduire des analyses épidémiologiques vers les publics qui ont été les plus exposés aux pesticides, c'est-à-dire vers les enfants d'agriculteurs. Je trouve aberrant depuis des années qu'il n'y ait pas d'études épidémiologiques précises, notamment en France, où les régimes sociaux sont séparés et dépendent de la MSA, et qu'on ne recherche pas, notamment chez les horticulteurs, notamment chez les publics les plus exposés à ça, des indices donc d'apparition de maladies, et qu'on publie des études et qu'on fasse... qu'on oblige à communiquer de façon massive sur les résultats de ces études. Deuxièmement, je termine et puis je vous passe la parole. En 98, il paraît dans Science et Vie un article qui met en cause donc le caractère cancérigène de certains pesticides et notamment du bénomyl. Et j'interviens donc dans une assemblée générale d'ingénieurs agronomes, puisque je fais partie bien évidemment de l'Union nationale des ingénieurs agronomes, et j'interviens, puisque le sujet était vaguement là-dessus, sur la toxicité des produits chimiques à l'époque, on était en pleine préparation de l'agriculture raisonnée, et je me suis fait vraiment prendre à partie par des collègues de Bayer, etc., enfin moi j'ai jamais fait un franc de revenus avec les produits chimiques. Mais en fait, ils m'ont fait remarquer que l'homme l'homme ne récoltait que ce que les parasites lui laissaient, que j'étais grosso modo un traître à la cause, je ne rendais pas, disons, un hommage satisfaisant au progrès immense qu'on avait fait, et qui est réel d'ailleurs, à la productivité dans l'agriculture, mais c'est oublier le mécanisme du végétal, qui est d'avoir besoin, qui n'a pas besoin du parasite, tant qu'il est capable de sécréter les télétoxines qui les écartent. Et en fait, on est le cœur du problème, le moteur du problème, ça a été dit plusieurs fois, mais donc je voudrais le redire en tant qu'agronome, le moteur du problème et la clé de la solution, c'est le complexe argilo-humique. Donc si c'est la première fois que vous en entendez parler, regardez sur Internet, le complexe argilo-humique, c'est la clé de la solution, la clé de l'énigme. Je vous passe la parole.
Je peux juste répondre en tant tant que médecin, Monsieur Felter, les études épidémiologiques, elles existent. Elles sont nombreuses, elles sont très nombreuses, elles existent en France, elles existent aux États-Unis, elles existent au Canada, elles existent en Inde. Ce sont des études d'exposition, elles sont là. Je vous ai dit par contre que ce qui est plus difficile et qui n'existe pas encore, c'est les études toxicologiques, c'est-à-dire où on montre que tel cocktail de produits donne telle pathologie. Là, nous avons des arguments de présomption chez l'homme et nous avons des certitudes chez l'animal. Donc, on sait exactement de quoi les études épidémiologiques, elles existent. Il y a l'Institut Villejuif à Paris qui a sorti un papier il y a 3 ans où ils ont fait une étude sur les enfants atteints de leucémie. Et, excusez-moi, les enfants atteints de leucémie, ils ont prouvé que il y avait une relation positive entre l'exposition de ces petits-enfants dans leur foyer domestique, à ceux que vous avez cités tout à l'heure, c'est-à-dire aux herbicides étendus dans les jardins des écoles, aux herbicides étendus et épandus dans les jardins de leurs parents, aux shampoings anti-poux et à l'utilisation de produits domestiques de nettoyage. Donc ces études, ce qu'on appelle expositionnelles, qui prouvent qu'on a d'autant plus de risques d'avoir une maladie, qu'on a d'autant plus été exposé à tel produit chimique, ça existe. Je vous cite celle-là parce que c'est une étude française. Il y a l'étude du professeur Félichel. Donc ce qu'on n'a pas, c'est une toxicologie. Donc maintenant, à mon avis, pour répondre à votre attente, je dirais, c'est qu'il faut il faut arriver à décider les politiques contre cette agriculture parce que, et peut-être unir les arguments scientifiques, ils sont là, mais il faut savoir de quoi on parle. Nous n'avons pas d'argument toxicologique direct, mais nous avons suffisamment d'études épidémiologiques et d'études d'exposition pour justifier et promouvoir de plus en plus l'alimentation biologique. Donc, éventuellement, si on peut éventuellement même vous aider, les scientifiques, les études scientifiques, elles sont là.
Simplement, je voudrais, moi, au niveau du faisais allusion à Slow Food, je trouve que c'est très bien le travail que fait actuellement Slow Food, WWF et la Fondation Nicolas Hulot, qui sont là aussi pour aider à ce qu'une meilleure compréhension des produits bio et de la promotion de la bio.
Mais vous savez, il ne faut pas être naïf, monsieur. Hein. Quand vous voyez les intérêts énormes qui sont en jeu dans cette affaire, vous croyez vraiment qu'ils n'ont pas déjà toutes les informations et que la volonté politique de le faire, elle manque simplement parce qu'il y a des intérêts en jeu énormes. Écoutez, regardez avec les OGM, regardez le gaspillage d'argent, les montagnes d'argent qui sont mises dans des programmes qui sont aberrants. On a entendu ce soir-là plein de bon sens, c'est ça qui me rassure. Les jeunes qui ont parlé là, mais c'est le bon sens. On n'a pas besoin d'études et de prouver des choses jusqu'à quand, quand on sait d'ailleurs que les études sont tronquées pour l'homologation des pesticides qui sont mis sur le marché, quand on sait que on étudie que la molécule active, et quand on voit dans le cas de Monsanto que c'est même pas la molécule active qui a été étudiée, mais une molécule secondaire qui elle vraiment a de l'effet, mais qu'on n'a pas tenu compte de l'ensemble du produit, le Roundup en particulier, qu'on voit la dangerosité de ce produit, qui est masqué, y compris par les organes chargés de leur surveillance, je veux dire l'EFSA et l'AFSA, qui quand même ont émis des avis, qui un jour, à mon avis, vont les voir devant les tribunaux, ces gens-là. Je peux vous le garantir.
Mais je vous réponds, puisque j'espère que ça sera publié, mais l'avantage de la publication, c'est qu'elle est publique, et l'avantage du jugement, c'est qu'il est également public. Et il faut donner des arguments aux juges. Il faut donner des arguments aux juges, on en est là. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas à l'intérieur d'une sollicitation bienveillante du politique. Le politique, il est un féodé. Ne croyez, moi je vous rejoins tout à fait, le politique ne peut pas faire autrement que de suivre l'agrochimie. Ça, je vous témoigne de l'intérieur, il ne peut pas faire autrement. Par contre, le juge peut faire autrement. Et le juge peut être interpellé par le citoyen qui fonde son interpellation sur la base de quelque chose de publié. Seulement, uniquement comme ça.
Monsieur, j'ai trouvé votre jugement un peu sévère par rapport au fait que l'agriculture biologique n'avait pas su réagir au bon moment. Je vous rappelle quand même une chose. C'est que les fondements de l'agriculture biologique, vous l'avez dit, ils sont liés à la fois au sol, mais moi j'ai envie de dire que le sol c'est pas un support, c'est un milieu, déjà, une première chose, dont le complexe argilo-humique fait partie, dont la vie animale fait partie. Je rappelle tout à l'heure, vous ne l'avez pas dit, mais qu'au niveau de la recherche, les entomologistes qui sont des personnages clés au niveau de la lutte biologique et des interactions, eh bien ils ont vu leur budget coupé. Quant à l'agriculture biologique, nous n'avons jamais été pris en compte par les structures nationales et les chambres d'agriculture pour qui nous étions des parias, et nous avons dû travailler nous-mêmes. Alors ce qui nous a sauvés, c'est le bon sens, parce que notre savoir à nous, quelque part, il n'est pas écrit, il est transmis par notre observation aussi. Je ne mets pas en cause la nécessité d'avoir des ingénieurs qualifiés comme vous pour nous aider. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a fait avec les moyens qu'on avait. C'est tout. Et on est arrivé à quelque chose, et aujourd'hui, on nous demanderait de prouver des choses qui sont médicalement prouvées. Je rappellerai l'étude qui a été faite par les médecins allemands dans la zone d'Almeria, où on a prouvé que les producteurs qui ont autoconsommé leur tomate et leur poivron ont vu, en 10 ans, augmenter les cancers du côlon de façon abominable. Donc, je veux dire, maintenant on nous dit, il faut nous prouver par des études, etc. On n'a pas le temps de faire ça. C'est et on n'en a pas envie non plus. Parce que la modélisation, on l'a prouvé. Moi-même, j'ai une entreprise, je fais travailler des gens, je donne des salaires, je nourris du monde, et j'estime que c'est un modèle qui suffit.
Combien de publications ?
Mais les publications...
Mais c'est ça, le juge, il se passe là-dessus.
Mais le juge, mais oui. J'espère qu'on ne va pas avoir affaire au juge. Si
mais
on
si,
est là,
mais si. Il n'y a que lui qui peut sortir de l'affaire.
Bon, c'est un point de vue. Moi, j'espère pas y
arriver. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Pour ceux qui seraient intéressés, donc Médecine et Alimentation du Futur, qui regroupe les entretiens de Biancé, qui est à 20 euros... merci beaucoup.